Il est 7h à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 6h, temps universel. Nous sommes le mercredi 20 mars, journée internationale de la francophonie. RFI est en direct ce matin du siège de l'OIF à Paris, édition spéciale jusqu'à 9h avec des invités qui jonglent entre 2, 3, voire 4 langues, dont le français. Vous allez l'entendre, il s'en porte très bien. Tout de suite, c'est le journal. Bonjour Grégory Lesca.
Bonjour Nathalie Amar, bonjour à toutes et à tous. Le Mozambique compte ses morts et cherche ses survivants. Le cyclone Idai a ravagé le centre du pays et les dégâts sont lourds. Plus de 200 personnes ont péri dans le pays selon un bilan encore très provisoire. Nous serons en direct avec notre correspondant régional au début de ce journal. Londres cherche la sortie de l'Union Européenne mais aussi de l'impasse dans laquelle le Royaume-Uni est bloqué. À 10 jours de la date officielle du Brexit, Theresa May devrait demander un délai aux Européens. Les eurodéputés, eux, s'impatientent. Christophe Castaner l'assure. Tout était prêt pour faire face à la violence des manifestations samedi à Paris, mais le plan n'a pas été respecté. Des explications du ministre de l'Intérieur qui ne convainquent pas les sénateurs. Nursultan Nazarbayev quitte la présidence du Kazakhstan. Après 30 ans au pouvoir, le tout-puissant dirigeant cède sa place, mais devrait continuer de diriger le pays dans l'ombre. Dans l'actualité également, le Hamas, montré du doigt après la répression des manifestations dans la bande de Gaza. Et puis à l'occasion de la journée de la francophonie, rencontre en fin de journal avec Amadou et Mariam qui étaient en tournée en Chine. De l'eau à perte de vue, des kilomètres et des kilomètres recouverts par des torrents de boue, le Mozambique panse ses plaies après le passage du cyclone Idai. Une violente tempête qui s'est abattue également sur le Zimbabwe et le Malawi voisins. La catastrophe a fait au moins 300 morts, mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd, jusqu'à 1000 victimes selon le président du Mozambique qui a survolé les régions dévastées. Car la zone sinistrée est immense et les secours ont encore du mal à évaluer l'ensemble des dégâts. Noé Ochebaudin, vous êtes notre correspondant. Cependant, dans la région, 6 jours après le passage du cyclone, les recherches ne sont toujours pas finies.
Non, toujours pas finies et ces recherches sont d'ailleurs rendues difficiles car les pluies tropicales continuent de tomber aux alentours de Beira, la ville mozambicaine, engloutie à 90% par le cyclone. Quasiment une semaine après le passage d'Idai, des familles entières sont encore coincées sur le toit de leur maison ou dans des arbres, attendant désespérément les secours. Elles sont en réalité entourées d'eau. Il y a une véritable mer d'un rayon de 100 km qui s'est formée à l'intérieur des terres mozambicaines. Idai prévient d'ailleurs les Nations Unies pourrait être le pire cyclone qui n'ait jamais touché l'hémisphère sud. Les secouristes continuent leur travail donc, mais font face à un défi. Aucun camp n'a pour l'heure été mis en place pour reloger les personnes sinistrées et leur administrer les premiers soins. D'après le Programme alimentaire mondial, ce futur camp devrait pouvoir recevoir plus de 300 000 personnes. L'autre inquiétude, ce sont toujours ces barrages dans la région qui menacent de déborder ou de s'effondrer. L'urgence est donc d'évacuer les populations qui se trouvent dans les vallées, proches des rivières, pour éviter une seconde catastrophe.
Merci Noé Ochebaudin en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. Aujourd'hui débute un deuil national au Mozambique, deuil de 3 jours. Les États-Unis se sont-ils rendus coupables de crimes de guerre en Somalie? C'est en tout cas l'accusation d'Amnesty International. Dans un rapport publié hier, l'Organisation de défense des droits de l'homme avance que les frappes américaines contre les islamistes en Somalie ont considérablement augmenté ces 2 dernières années, plus d'une centaine au total, et elles auraient tué des civils, au moins 14, selon l'ONG qui accuse l'armée américaine de dissimuler ses victimes. Washington dément vigoureusement. Il y a comme un air de lassitude en Europe alors que la première ministre britannique devrait adresser aujourd'hui une demande de report du Brexit au 27. La France a mis en garde hier qu'un report n'était ni évident ni automatique. Le négociateur européen Michel Barnier s'inquiète lui des coûts économiques et politiques de ce probable report. À 10 jours de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, le pays est dans l'impasse. Le Parlement somme le gouvernement de trouver un accord de sortie mais rejette les accords proposés. Si report il y a, il faudra définir sa durée. Au-delà de 3 mois, le Royaume-Uni serait obligé d'organiser des élections européennes pour élire les futurs eurodéputés. Situation cocasse, exaspérante aussi pour les députés européens à Bruxelles qui doivent valider l'accord de divorce. Reportage Johanna Hochstein.
Agacement, frustration, exaspération pour certains, voilà les sentiments qui dominent au Parlement européen. Le scénario d'un report du Brexit est sur toutes les lèvres ici aussi. S'il est envisageable pour la présidente de la délégation des socialistes français, il faut qu'il serve à organiser un nouveau référendum. Christine Revaud-Dallone.
Un deuxième référendum, mais sur l'accord qui a été conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est sur celui-ci et pas reposer la question qui a été posée le 23 juin 2016. Ça n'est pas possible. Ça voudrait dire qu'il y aurait une défiance vis-à-vis du premier référendum.
Autre préoccupation, le sort des 73 eurodéputés britanniques. Que leur arrivera-t-il s'il y a un report du Brexit au-delà des élections européennes, se demande le député néerlandais libéral Matthijs van Miltenburg.
Moi, j'ai des collègues britanniques. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Ils ne savent plus si finalement ils font partir le 29 mars, s'ils doivent encore rester quelques mois, si finalement ils doivent quand même se présenter aux élections qui doivent se tenir.
Les parlementaires viennent d'adopter une série de textes pour tenter de limiter les dommages en cas de no deal, notamment au niveau du secteur des transports. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
Et demain, cette question du report sera évoquée lors du Conseil européen. Deux Palestiniens ont été tués cette nuit à Naplouse, en Cisjordanie. L'armée israélienne affirme avoir ouvert le feu en réponse à des tirs d'engins explosifs sur des fidèles juifs présents au tombeau de Joseph dans cette ville. Le Proche-Orient, où les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent des violentes répressions de manifestations pacifiques dans la bande de Gaza. Pendant 4 jours, en fin de semaine dernière, des rassemblements pour protester contre le coût de la vie ont eu lieu dans plusieurs localités de l'enclave palestinienne. Les autorités du Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir, ont dispersé par la force ces manifestations. Plusieurs ONG évoquent des centaines d'arrestations et dénoncent la poursuite de la répression. À Jérusalem, Guilhem Delteille.
Les vidéos mises en ligne en fin de semaine dernière sur les réseaux sociaux montraient des rassemblements dispersés par la force. La répression des manifestants a été violente, confirme Hamdi Shakoura. Il est le directeur adjoint du Centre palestinien pour les droits de l'homme.
Ils ont été brutalement attaqués par les forces de police. Dans de nombreux cas, des hommes armés en civil ont participé à ces attaques. Nos équipes ont rendu compte de nombreux cas de tabassage qui ont causé des blessures sérieuses pour des dizaines de personnes.
Les arrestations ont eu lieu lors des rassemblements, mais aussi dans des raids ultérieurs. Et elles se poursuivent sur Hamdi Shakoura. Son organisation affirme aussi que des dizaines de manifestants ont été traduits devant des tribunaux militaires. Le Hamas ne supporte aucune forme de contestation, dénonce le militant des droits de l'homme.
Au moment où nous demandons tous à Israël de respecter le droit des Palestiniens de manifester pacifiquement dans des zones le long de la ligne de séparation, nous voyons cette hypocrisie. Ils n'ont aucune tolérance à l'égard de quelque voix que ce soit contre eux ou contre les conditions de vie.
Dans un communiqué publié ce mardi, le Hamas dit rejeter la violence contre tout Palestinien exerçant son droit à la liberté d'expression. Mais sur le terrain, nous voyons le contraire, répond Hamdi Shakoura. Guilhem Deltec, Jérusalem, RFI.
Scott Morrison ne décolère pas. Le Premier ministre australien a rejeté les excuses de l'ambassadeur de Turquie dans le pays et exige des explications après les déclarations de Recep Tayyip Erdogan. Le président turc a en effet jugé que l'attentat perpétré par un Australien et qui a coûté la vie à 50 personnes dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande s'inscrivait dans le cadre d'une offensive contre l'islam et contre la Turquie. Et il a menacé les Australiens qui seraient hostiles à l'islam de sévères conséquences. Des propos qualifiés d'irréfléchis, d'ignobles et d'offensant par l'Australie. Il est 7h08 à Paris. Son audition était très attendue. Christophe Castaner, le ministre français de l'Intérieur, était interrogé hier par la Commission des lois et des affaires économiques du Sénat. 3 jours après les graves violences en marge de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, commerces pillés, saccagés ou encore incendiés, notamment sur les Champs-Élysées, le ministre a tenté de s'expliquer, mais ses justifications ne semblent pas avoir convaincu les sénateurs, Julien Chavannes.
3 heures d'audition et une question qui est revenue souvent dans la bouche des sénateurs. Le gouvernement était-il prêt face au risque de violence? A-t-il fait ce qu'il fallait? Jacqueline Eustache-Brignaud est sénatrice Les Républicains.
Comme beaucoup de Français, j'imagine, je n'ai toujours pas compris comment nous en sommes arrivés au saccage des Champs-Élysées samedi.
Face à elle, Christophe Castaner ne changera pas une virgule de sa ligne de défense. Le gouvernement avait bien anticipé les risques, mais ses consignes n'auraient pas été suivies par le préfet de police de Paris, limogé cette semaine.
Nous avions fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Il y a eu des dysfonctionnements, ils ont causé des violences.
Pas de mea culpa du ministre de l'Intérieur et des réponses loin de convaincre les sénateurs, comme le républicain François Grosdidier.
Je crois qu'on a un problème de clarté du cap, de clarté des consignes, et peut-être que là on fait payer des lampistes ou alors on offre la tête du préfet de police, mais il semble que la clarté n'ait pas été de mise à aucun niveau.
Les sénateurs ne comptent pas en rester là. Les syndicats, des responsables de la sécurité et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, seront eux aussi entendus dans les prochaines semaines.
Et deux autres responsables sont dans le viseur du gouvernement, le directeur de cabinet du préfet de police et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne. Ces manifestations-là se sont déroulées dans le calme hier. Enseignants, étudiants et lycéens étaient dans la rue à l'appel de la CGT et de Force ouvrière. Une mobilisation pour réclamer entre autres des mesures en faveur du pouvoir d'achat, mais aussi dénoncer le projet de loi éducation. 131 000 personnes ont manifesté selon le gouvernement, 350 000 selon les syndicats. Nursultan Nazarbayev passe la main. Le tout-puissant dirigeant du Kazakhstan a annoncé sa démission hier dans une allocution surprise à la télévision. Cette décision intervient en pleine grogne sociale, un mois après le limogeage du gouvernement, à 78 ans, dont 30 à la tête de ce pays d'Asie centrale, riche en uranium et en pétrole. Nursultan Nazarbayev quitte donc la lumière, mais continuera de diriger le parti unique au pouvoir. La question de sa succession est donc ouverte. Samuel Karkanag est chercheur à l'IRIS.
Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que c'est le président du Sénat qui va prendre la présidence par intérim, Kassym Jomart Tokayev, qui est quelqu'un d'assez expérimenté. Il a 65 ans, il a travaillé auprès de Nazarbayev dès l'indépendance du Kazakhstan, il a été ministre des Affaires étrangères, il a travaillé à l'ONU, donc il a une forte connaissance de l'international. Il manque peut-être un peu de légitimité sur le plan intérieur. Il semblerait que des élections soient tenues dans les mois qui viennent. On peut imaginer une succession contrôlée par lui et par ses proches pour que à la fois ses intérêts personnels soient préservés et à la fois que la vision qu'il a du développement du Kazakhstan soit elle aussi préservée, c'est-à-dire faire du Kazakhstan une des 30 premières économies mondiales d'il y a 2030 ou 2040, essayer d'apporter un certain niveau de développement économique et social pour la population. Reste à savoir quelles seront les relations du futur président avec la Russie, avec la Chine, quelles seront également les réformes politiques et en termes de liberté publique qui pourront être faites. Pour l'instant, il est encore un petit peu tôt pour se prononcer.
Propos recueillis par Yelena Tomic. Le gouvernement italien ne transige pas. Hier, les douanes italiennes ont procédé à la saisie du navire humanitaire Mare Ionio, affrété par des militants de gauche, et procédé aussi à l'arrestation de son équipage. Son tort, avoir secouru une cinquantaine de migrants au large de la Libye et les avoir escortés jusqu'à l'île italienne de Lampedusa. Nicolas Falaise.
Navire humanitaire battant pavillon italien, le Mare Ionio a été affrété à l'automne dernier par des militants de la gauche italienne bien décidés à défier la politique migratoire de Rome. Ce lundi, le bateau a secouru près de 50 migrants sur un canot en difficulté au nord de la Libye. Des gardes-côtes de ce pays se trouvaient également à proximité du canot, mais l'équipage du Mare Ionio a choisi de prendre en charge les migrants afin d'éviter leur retour en Libye, où ils sont nombreux à subir des violences. Suite à ce sauvetage, les autorités italiennes ont interdit au navire humanitaire d'accoster avant de le saisir ce mardi soir au large de l'île de Lampedusa. Il y a en Italie un gouvernement qui défend les frontières et qui fait respecter les lois, s'est félicité le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, alors que la justice italienne ouvrait une enquête pour aide à l'immigration clandestine.
En cette journée internationale de la francophonie, direction la Chine, où Amadou et Mariam étaient en tournée dans le cadre du mois de la francophonie. Notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde, est allé à la rencontre du couple de chanteurs maliens. Ils lui ont confié leurs souvenirs de jeunesse et de musique chinoise entendue à la radio malienne.
Merci en chinois, en français et en bambara. Si Amadou lance le bal, c'est souvent Mariam qui remercie à la fin des chansons. Un numéro bien rodé pour les rois de l'afrobeat, du funk et du groove, ambassadeur de la joie, de la culture malienne et du français. Et le public chinois, qu'est-ce qu'il y comprend dans tout ça?
La musique, c'est universel.
Même s'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, nous les faisons chanter. Il y a un morceau qui s'appelle « C'est chaud partout ». Donc on demande à tout le monde de chanter « C'est chaud partout, c'est chaud partout ».
Le célébrissime duo de Bamako se produit pour la quatrième fois en Chine, Shanghai et Pékin à l'invitation du mois de la francophonie. La musique et le français comme lien vers d'autres cultures, et en l'occurrence, vers la musique chinoise.
On connaît déjà la musique chinoise
parce que ça passait à la radio au Mali. Quand on était jeunes, on écoutait ça.
C'est la pentaphonie, ça ressemble à la musique bambara. Quand on jouait dans les orchestres, on essayait de mettre quelques mélodies chinoises dans nos morceaux. Ça faisait un bon mélange. Tan, 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 tararan.
Et après Pékin, le couple malien ira directement à Barcelone pour enregistrer les maquettes du prochain album. Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
RFI, 7h15, ici à Paris, et la francophonie est célébrée sur l'antenne tout au long de la journée. Et notamment avec vous, Nathalie Amar. Tout de suite, c'est l'édition spéciale en direct de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris.
Merci Grégory Lesca, à tout à l'heure.
Journée internationale de la francophonie.
RFI, en édition spéciale.
Nathalie Amar.
Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 2h d'émission spéciale en direct du siège de l'OIF à Paris. Dans une heure, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, sera avec nous 2 mois après le début de son mandat. Elle nous dira quelles en sont les priorités et les écueils. D'ici là, avec nos correspondants, nos invités, on va parcourir la planète francophone de Port-au-Prince à Kinshasa en passant par N'Djamena et Abidjan. La Côte d'Ivoire qui a inventé son propre français, son français ivoirien et son argot, le nouchi.
Le nouchi, c'est le parler des caïds. Mais il est le plus populaire, il est le plus créatif, il est le plus abondant. Donc finalement, il devient le nom générique du français ivoirien. C'est une inflexion du parler qui est liée au climat qu'il fait ici, aux gens qu'il y a, à leur réalité. Et puis à la langue qu'il parle originellement, ce n'est pas une altération. Je considère le français comme une mosaïque aujourd'hui. Par exemple, un terme de nouchi en jaillé. Et passer dans le dictionnaire. Chacun doit envoyer sa contribution afin que la mosaïque soit constituée.
On s'enjaille, on nouchie, on s'amuse en français, le français, les langues d'Afrique ou d'ailleurs. Comment ces différents langages se métissent, s'agrègent, comment ils se complètent ou se concurrencent aussi. On va le voir avec nos invités qui sont tous, évidemment, au moins bilingues. Bonjour Okata Ouedraogo.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous.
Vous
êtes la marraine de cette journée internationale de la francophonie. Vous êtes comédienne en ce moment à Paris au Théâtre de l'Œuvre avec votre spectacle. On ne va pas dire one man show, hein, on va
non,
dire... Seul en scène, plutôt. Je demande la route, c'est le nom de ce spectacle. C'est du français d'Afrique de l'Ouest, ça d'ailleurs, Je demande la route.
Oui.
Qu'est-ce que ça signifie ?
En fait, c'est une tradition qui existe chez moi au Burkina et je pense aussi en Afrique de l'Ouest. C'est pour demander en fait les bénédictions, que les bénédictions de notre hôte nous accompagnent. Parce que par exemple ici en France, quand on va chez quelqu'un, on ne dit pas, bon bah, on peut se lever comme ça et puis dire, bon bah, je prends la route. Et bien chez nous, la route, on ne la prend pas, on la demande.
On demande l'autorisation de partir.
C'est plus que de la politesse en fait. C'est demander vraiment que les bénédictions de notre hôte nous accompagnent et nous protègent tout le long de notre parcours.
Et donc vous avez demandé la route à l'âge de 19 ans, c'est ça ?
C'est ça, à 20 ans, oui.
19 ans, vous êtes née au Burkina, venue à Paris donc pour devenir styliste. Vous vous êtes retrouvée, après pas mal de péripéties, au cours Florent, un des grands cours de comédie en France.
Exactement.
Vous vouliez vous débarrasser de votre accent, paraît-il. Quel était le problème ?
Pas spécialement me débarrasser de mon accent, mais apprendre à l'aimer, apprendre à le faire moi. Puisque ici, j'étais beaucoup confrontée à des gens qui me disaient « mais c'est pas possible, tu ne peux pas vivre en France et avoir un accent aussi à couper ou coupe-coupe, comme on le dit ici ». Et à un moment donné, j'étais complexée, voire même la parole coupée, je ne pouvais plus parler parce que j'avais toujours honte que les gens me regardent ou rigolent dès que je dis quelque chose.
Le complexe de ne pas parler le bon français, entre guillemets.
Exactement, c'est ça. Donc le français, moi, ce n'est pas ma langue maternelle. Moi, ma langue maternelle, c'est le moré. Je suis moréphone que francophone. Et le français, je l'ai appris à l'école. Et puis ici, j'ai dû réapprendre à parler le français en faisant ce stage de prise de parole au cours Florent.
Et vous parlez aussi le dioula. Le gourmanché et un peu le peul.
Exactement.
4 langues et demie, allez, on va
langues,
dire.
Oui.
C'est une bonne langue pour l'humour, le français. Vous auriez pu écrire votre spectacle en moré aussi ?
J'aurais pu, mais je pense que c'est un peu plus hardi, hein, c'est un peu plus compliqué. Enfin, le français, c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et de me faire entendre partout où je pars. que ce soit à Amsterdam, au Luxembourg, au Québec, si je joue le français, les gens peuvent me comprendre.
Et on aura l'occasion d'y revenir au Kata Ouedraogo. Vous serez à l'œuvre tout à l'heure pour la grande dictée de la francophonie. À vos côtés, Stéphie Rose, Gnot Gnot, bonjour.
Bonjour Nathalie.
Alors vous avez créé sur internet Je parle le Bassa 2.0. Le Bassa, c'est une des 200 ou 300 langues parlées au Cameroun. On vous retrouve d'ailleurs dans Afrique Matin le jeudi pour explorer la richesse des langues africaines. Alors vous aussi, vous avez eu des soucis d'accent, mais c'était le contraire. C'était quand vous rentriez voir votre famille au Cameroun et qu'on vous disait tu parles le Bassa avec un accent sacrément français quand même.
Exactement, c'est ça.
Ce site sur les langues d'Afrique aujourd'hui, c'est pas une lubie, ça correspond évidemment à une tendance, à un certain retour à ces langues originelles entre guillemets.
Oui, tout à fait. Alors en fait, moi j'ai créé Je parle le Bassa 2.0 il y a 5 ans dans une recherche identitaire, c'est-à-dire que je suis née, j'ai grandi en France. Donc je suis camerounaise, mes deux parents sont Bassa. Et durant un bon moment, j'ai toujours été intéressée par le patrimoine linguistique ou matériel et immatériel d'autres pays. Et j'ai eu l'occasion de revenir à Paris pour faire un stage auprès du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et durant cette période, je suis donc revenue vivre avec mes parents. Et ça faisait à peu près 2 ans que j'avais pas passé plus de 1 mois ou 2 avec eux. Et je les ai entendus parler en Bassa. Et je me suis rendu compte que le Bassa, que j'ai toujours plus ou moins compris, mais jamais su parler, commençait à sembler comme une langue étrangère. Et ça m'a beaucoup stressée. Donc je me suis dit, il faut que j'essaie de faire quelque chose pour pouvoir peut-être le transmettre plus tard à mes futurs enfants et même pour moi-même. Donc, j'ai lancé la page Je parle le Bassa 2.0 tout à fait naturellement pour me réapproprier ma langue d'origine, donc la langue de mes parents, le Bassa, à travers le français.
Et on y reviendra évidemment. Bonjour Nadia Yala Kisukidi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à Paris 8. Alors vous êtes née en Belgique d'un père congolais, d'une mère franco-italienne. Comment est-ce que vous avez navigué entre ces identités, ces différentes langues?
Alors pour les identités, il n'y a pas eu de problème en fait, au sens où je suis congolaise, je suis française, mais c'est vrai que l'histoire des langues est beaucoup plus particulière. Bon, déjà, en naissant en Belgique, moi j'étais bilingue, parce que je parlais flamand et français. Et c'est aussi l'histoire qui est la mienne, c'est aussi une histoire d'immigration, mais qui est un petit peu difficile, puisque mon père, a quitté la RDC, précisément parce qu'il était opposant au régime de Mobutu. Et donc, en gros, la question qui a été la mienne, la problématique avec laquelle mes parents ont dû m'élever, c'est quel sera ton pays, en fait? Et donc, quand on est arrivé en France, mon père m'a dit, enfin, il l'a dit explicitement, ma fille, ton pays sera le pays de ta langue, en fait, et ta langue, c'est le français. Et donc, ce qui est très singulier, c'est que j'ai vécu avec une espèce de fond indifférencié derrière moi, qui était fait de Lingala, de Kikongo, mais ma langue centrale, c'était le français. Et comme l'a dit l'interlocutrice précédente, en fait, la question pour moi a été, mais comment me réapproprier une langue qui est devenue un fond indifférencié dans ma vie?
Alors, on a fait honneur aux dames, mais on salue également Jean-Martial Kouamé, qui est avec nous ce matin. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes maître de conférence au département des sciences du langage de l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Vous avez contribué au dernier rapport sur l'état de la francophonie. Vous travaillez en fait sur les spécificités des langues du français d'Afrique, pardon. Est-ce que vous parlez le nouchi, Jean-Martial Kouamé? Vous la parlez, vous, cette langue des caïdes?
Alors, je me débrouille en nouchi, mais c'est pas, on va dire, la langue que j'utilise au quotidien. Voilà, parce que.
Mais c'est un code qu'il faut apprendre à maîtriser quand on se balade à Abidjan.
Ben oui. Il y a des lieux, des endroits où pour passer, pour pouvoir interagir avec les personnes, il faut s'approprier le nouchi, en fait.
Alors, ce que l'on a entendu à propos du nouchi en Côte d'Ivoire il y a un instant, c'est en fait, Jean-Martial Kouamé, un phénomène plus large en Afrique de porosité entre les langues. Elles se métissent, elles se contaminent, elles s'influencent.
Tout à fait. Par exemple, avec le français arrive donc dans un environnement où il est en contact. Je veux parler du cas de la Côte d'Ivoire, en contact avec plus d'une soixantaine de langues. Donc, le français va d'une certaine façon enrichir ces langues qui, à leur tour, vont imposer aux Français leurs ressources structurelles. Mmh. Donc voilà un peu comment se comporte. Donc voilà le métissage qu'il y a entre le français et les langues du terroir. Voilà.
Alors on va se rendre, si vous le voulez bien, immédiatement à Kinshasa, la RDC, premier pays d'Afrique, premier pays francophone d'Afrique, pardon, avec plus de 40 millions de locuteurs. On y parle aussi évidemment une foule d'autres langues, le Kikongo, le Swahili, le Chiluba, et et bien sûr le lingala. Alors question, grave question, dans cette langue, dans quelle langue a-t-on le plus de chances de séduire? Dans quelle langue drague-t-on à Kinshasa? C'est un reportage de Passion Ligaudi.
Les Kinois sont réputés séducteurs, charmeurs. Pour certains comme Ali, quand il faut aborder une fille, la langue ne compte pas beaucoup, mais c'est le cœur.
Je préfère draguer en lingala. Si je drague en lingala, je me sens à l'aise, je me sens bien. Je sors des mots qui sortent de mon cœur. Je ne vais pas chercher très loin.
Mais dans le milieu des jeunes Kinois d'aujourd'hui, le cœur seul ne suffit pas. Il y a aussi la langue française et tout ce qu'elle charrie comme arsenal de séduction. Eric a 19 ans.
En français, tu as la facilité d'exprimer ta romance envers la fille, d'employer tous les mots que tu as étudiés à l'école et puis dans des romans. Et voilà, tu as en fait la facilité de t'exprimer à l'aise.
Jeannot, rencontré sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, s'appuie également sur la langue française parce qu'il s'agit d'après lui de conquête et il faut mettre toutes les chances de son côté.
Et on sent que on est prêt à faire sortir donc toute la poésie qu'on a appris à l'école. On libère tout ce qu'on a pour en fait convaincre parce que là c'est comme si vous partez pour conquérir son cœur. Parce que le cœur, il faut marquer le cœur.
Mais il y a aussi cette autre façon de parler, un mélange du français et du lingala, qui fait que dans une même phrase peut se côtoyer allègrement plusieurs mots de ces deux langues. Passion Ligaudi, Kinshasa et RFI.
Voilà donc pour la drague à Kinshasa en français et en lingala. Rukyata Ouedraogo, ça se passe comment à Ouaga?
Moi, je me suis fait souvent draguer en français.
On imagine bien, oui.
Voilà. La langue de Molière qu'on a choisie pour draguer.
Et donc, c'est le français qui est privilégié?
Je ne sais pas, mais je pense, oui, je crois, oui. Mais en Mori aussi, c'est pas mal parce que c'est une belle langue chantante. Mnongafo, en Moré, c'est joli.
Mnongafo, ce qui je signifie t'aime. Je t'aime.
Mnongafo.
En Moré. Oui. Quelle est d'ailleurs la fonction du français pour vous? On l'a dit, hein, vous écrivez vos spectacles en français. Comment est-ce que vous catégorisez les choses? Qu'est-ce que vous faites en français? Qu'est-ce que vous faites plutôt en Moré ou dans d'autres langues?
En français, c'est mon outil de communication. C'est avec le français que j'écris mes textes, que je monte sur scène, que je partage tout ce que je sais aujourd'hui et que j'ai acquis. Par contre, le moré, c'est une langue. Quand moi j'appelle maman, quand j'ai le blues à Paris, j'appelle ma mère, c'est en moré qu'on converse. Et tout de suite, j'ai le soleil de Ouagadougou qui rentre dans mon cœur. Et voilà, et je rêve aussi en moré, oui. Alors que ça fait 19 ans que je vis en France, et quand je rêve, c'est en moré que ça se passe.
Jean-Martial Kouamé, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous aussi, vous avez des spécialités linguistiques comme ça?
Alors, ce qu'il y a, c'est que le français, il est très présent en Côte d'Ivoire. Donc, je parlais tantôt de variations du français en Côte d'Ivoire. Vous avez, par exemple, ce qu'on appelle le français ivoirien. Vous avez le nouchi. Tout à l'heure, on parlait de la drague en Côte d'Ivoire. Vous entendrez, par exemple, un garçon s'adresser à une fille, lui dire en nouchi, tu es bata, ou tu es mal jolie, ou bien tu es réelle pour
mal jolie.
Mal jolie.
Ce qui signifie, tu es belle.
Tu es très belle. Tu es
d'accord.
Très belle. Tu es
c'est une drôle de façon de
bah
le
oui,
dire.
Mais... Bah oui, c'est un peu ça. Donc, l'esprit créateur donc, de ses locuteurs. Et donc, tu es réelle aussi pour dire aussi que tu es très jolie. Donc, il y a tout ça. Alors, je disais, moi, de manière particulière, je vais utiliser les différentes variétés de français dans différents environnements. Par exemple, quand je vais dans ce qu'on appelle les black markets, donc les marchés noirs, je vais utiliser le nouchi pour pouvoir interagir avec les personnes parce qu'arrivé là-bas, vous ne pouvez pas parler donc, du français standard. Donc, quand je serai, par exemple, au marché m'adressant à une commerçante, j'utiliserai, par exemple, le français ivoirien. Donc, c'est un français donc, qui se plie aux normes, à la structure des langues ivoiriennes. Quand je vais m'adresser à mes grands-parents, à ma grand-mère, je vais utiliser ma langue maternelle qui sera par exemple le baoulé. Donc en lien avec les interlocuteurs ou les situations de communication, le choix de la langue va s'opérer. Donc,
pourquoi voilà. Est-ce si important de préserver ce patrimoine linguistique, Jean-Martial Kouamé et peut-être Rukyata après?
Alors, il y a une fonction identitaire. On s'identifie à ces langues. C'est la langue du terroir. C'est la langue de nos parents. C'est une langue qui a besoin, on va dire, d'être préservée ou d'être transmise. Donc, il y a cet aspect. Il y a cet aspect-là qui est très important.
Rukyata, vous faites la comparaison finalement avec la biodiversité. Vous dites préserver les langues dans leur diversité, c'est comme préserver les espèces. Et puis s'il y en a une qui disparaît, bah c'est une perte pour l'humanité finalement.
Oui, effectivement. Parce que pour moi, la diversité, c'est une richesse. Et puis la francophonie est riche de sa diversité. Donc absolument, il faut cultiver ces langues et les garder. Voilà, il ne faut pas qu'elles disparaissent.
Stéphie Rose-Gnotte-Gnotte, sur ce point, sur la nécessaire préservation aux côtés du français et en mariage et en interaction avec le français de toutes les autres langues d'Afrique.
Oui, je pense que c'est très important de se souvenir d'où l'on vient. Peu importe si on est né ou on a grandi en France ou ailleurs, c'est quelque part quand on s'en retourne et qu'on a la possibilité de comprendre un peu ce que la manière dont les anciens s'expriment, c'est une sorte de fierté, puis c'est un véritable patrimoine. Un véritable devoir de mémoire.
On va se retrouver dans un instant en direct ici du siège de la francophonie à Paris avec Laurent Corot. On fera un tour d'horizon de ce monde francophone. Où sont les francophones dans le monde? Et puis on aura l'occasion d'écouter un auteur anglophone qui traduit du français en kikuyu. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ce sera à suivre tout de suite après la pause dans quelques secondes.
Journée internationale de la francophonie.
RFI en édition spéciale.
Nathalie Amar.
Il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel et nous saluons les auditeurs d'RFI en Aoussa qui viennent de nous rejoindre car RFI émet également dans certaines langues africaines. On parle des langues d'Afrique et de leur rapport avec le français ce matin, édition spéciale jusqu'à 9h. Bonjour Laurent Corot.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au service Afrique de RFI. Laurent, 300 millions de francophones dans le monde, c'est ce que indique le dernier rapport de l'OIF sur la langue française dans le monde. Près de 80% des locuteurs quotidiens du français sont en Afrique. Ils sont 33% en Europe, 7% en Amérique et dans la Caraïbe. Le centre de gravité de la francophonie, Laurent, c'est clairement le sud.
Et il continue en plus à se déplacer vers le sud. Le noyau dur de la francophonie s'africanise de plus en plus. 68% des nouvelles personnes qui sont venues rejoindre, augmenter ce noyau dur au cours des 5 dernières années viennent d'Afrique subsaharienne. Les chercheurs de l'Observatoire l'expliquent par l'effet croisé de la vitalité démographique du continent africain et des progrès de la scolarisation. Alors, ce centre de gravité se déplace vers le sud, mais ce qui est intéressant, c'est que la francophonie apparaît de plus en plus comme un espace de cohabitation, de complémentarité entre le français et des langues locales. Si on prend l'exemple de la Guinée, par exemple, dans la cour ou dans le quartier à Conakry, les personnes interrogées disent parler dans l'ordre soso, poular, puis français, tandis qu'à Ouaga, au Burkina, le français arrive troisième après le Dioula et le Moré dans les discussions qui ont lieu dans la cour ou le quartier.
Alors, sur cette cohabitation entre le français et les langues africaines, vous avez recueilli, Laurent, le point de vue d'un philosophe, Souleymane Bachir Diagne, philosophe sénégalais, évidemment, professeur de français à l'université Columbia aux États-Unis. Les langues d'Afrique sont-elles en train de prendre la place du français? On écoute ce qu'il en dit.
Je ne crois pas que la question se pose en termes d'alternatives et de place à prendre. La question est celle du pluralisme linguistique. L'Afrique est un continent avec des langues multiples et c'est un continent dont l'avenir est dans le pluralisme linguistique. C'est-à-dire que je vois très bien les sociétés africaines avoir de véritables politiques linguistiques pluralistes qui feront place au français, la place qui lui revient, et qui feront aux langues africaines également la place qui leur revient. Il est évident qu'on ne peut pas continuer à considérer que les langues africaines doivent être simplement des langues de l'interaction privée pendant que l'administration, la science, la création, tout cela se ferait seulement en français. Il est temps que les langues africaines deviennent ou redeviennent, parce qu'elles l'ont été par le passé, redeviennent des langues de création, des langues de science.
Jean-Martial Kouamé, les langues africaines doivent sortir de ce registre du quotidien et le français descendre peut-être de son piédestal de langue du savoir, comme le dit Souleymane Bachir Diagne.
Alors, cette situation, c'est celle qu'on observe en Afrique en fait. Donc le français, avec l'avènement du français, des langues qui étaient naguère très en vue vont connaître une certaine minoration. Donc le français va revêtir des fonctions beaucoup plus officielles, langue de l'administration, langue de la scolarisation. Et les langues, vraiment, comme il le disait tout à l'heure, vont rester donc dans la sphère privée. Alors de plus en plus, il s'agit donc de les valoriser, de les mettre en lumière pour que ces langues puissent aussi exprimer, on va dire, tout ce qui est officiel. Donc voilà un peu la situation.
Nadia Kisukidi, je vois que vous approuvez de la tête. Vous êtes d'accord pour dire qu'effectivement le français ne doit pas avoir l'exclusivité de l'expression du savoir, de la culture, des sciences ?
Non, il ne doit pas avoir l'exclusivité de l'expression du savoir, de la culture. Et en écoutant les propos, je me rappelle qu'il y a eu quand même de grands rêves portés au moment des indépendances, des libérations nationales, et où la question des langues a toujours été centrale, en fait. On pense aux réflexions d'un auteur comme Ngugi Wa Thiong'o, en fait, qui a toujours, je pense à son travail dans Décoloniser l'esprit, qui indique qu'il faut pouvoir cesser d'écrire peut-être en anglais pour revitaliser le Kikuyu comme langue de création. Je pense aussi même au texte un peu de Cheikh Diop, finalement. On dit toujours Nations nègres et cultures, c'est un texte qui est centré sur une espèce d'égyptomanie qui serait propre aux afrocentriques, mais pas du tout. C'est une réflexion sur la traduction. Et tout ce que dit Cheikh Diop dans Nations nègres et cultures, c'est simplement comment faire des langues africaines, des langues de savoir, des langues de création. Et il entreprend une espèce d'immense projet de traduction, en fait, pour justement renforcer, en fait, la capacité de ces langues à être des langues innovantes. Et là, je crois que c'est quelque chose de très, très fort et qui se diffuse aussi, en tout cas dans le champ qui est le mien, celui de la philosophie. Comment créoliser les langues de la philosophie? Comment faire de la philosophie dans des langues qui ne sont pas simplement les langues du centre, mais les langues du continent africain, d'Amérique latine et d'Asie?
Rukyata Ouedraogo, à quand un spectacle en Morée, à Ouaga et ailleurs peut-être?
Peut-être un jour, je ne sais pas. Pour l'instant, ce n'est pas dans mes projets, mais j'aimerais bien. Il y a des gens déjà qui le font. Il y a quelques comédiens à Ouaga qui font des spectacles en Morée et je trouve ça admirable de pouvoir aussi transmettre par les langues de nos cultures, et ça, je trouve ça formidable.
Alors le français, on l'a dit, 300 millions de pratiquants dans le monde. Il y a des projections qui disent que les francophones seront 400 à 700 millions à l'horizon 2050. Cette langue, on va le voir tout à l'heure, elle perd du terrain quand même dans certains pays. Elle est perçue aussi parfois comme la langue du colon, on va y revenir, celle qui a été imposée d'en haut, mais elle a aussi ses fans comme cet habitant de Ouaga Dougou que notre correspondant Yaya Boudani a rencontré.
Moi, j'ai toujours aimé les tournures, les belles phrases, et je trouve qu'en français, on trouve mieux ces subtilités de la langue, ces images. Quand on rentre dans les aspects poétiques, le français vraiment permet de véhiculer ce qu'on ressent, et c'est tellement intéressant que, en fait, il n'y a pas que des phrases, mais il y a aussi un certain plaisir à utiliser des phrases, des mots, parce que vous avez le choix d'utiliser tel ou tel mot pour exprimer tel ou tel sentiment. Et il arrive que vous écrivez une phrase et vous vous réjouissez parce que c'est une très belle phrase qui dit vraiment ce que vous ressentez au profond de vous avec beauté, tout simplement.
Rukyata Ouedraogo, vous l'avez, vous, ce plaisir des mots en français, cette délectation à jouer sur les registres de vocabulaire, les nuances, etc.
Oui, absolument. Moi, c'est vrai que même si de temps en temps je me permets de la cuisiner à la sauce gambo, puisque le français, moi, je l'ai, comme je disais, je l'ai appris à l'école, j'ai continué à l'apprendre ici. Et c'est vrai que moi, je torture un peu les mots. J'aime bien, dans mes spectacles, il y a toujours des petits clins d'œil au nushi, aux façons de parler un peu du Cameroun, des choses comme ça. Pour moi, c'est ça qui fait la beauté aussi de la langue française, c'est qu'on peut se l'approprier. Et la langue française, elle est devenue moi. Je me la suis faite, en fait. Je me la suis appropriée et elle est devenue mienne. Donc je pense que chaque personne de nous a cette particularité de pouvoir la transformer comme on souhaite.
Le français à la sauce gombo, Jean-Martial Kouamé, c'est une condition finalement du maintien du français, qu'il se mélange, qu'il se modifie, qu'il se métisse?
De toutes les façons, on ne peut pas faire autrement, les langues évoluent. Elles sont en contact avec d'autres langues qui vont les enrichir. Donc, c'est le sort qui est réservé à toutes les langues. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut accepter cet enrichissement de la langue, ce mariage, cette nouvelle couleur. Parce que tout à l'heure, en lien avec cette question, j'ai entendu le locuteur qui disait que le français est une belle langue, mais toutes les langues sont belles. Chaque fois que vous étudiez une langue, vous découvrez des choses exceptionnelles. Moi, je suis, on va dire, un locuteur moyen de ma langue, mais dès que j'ai commencé à l'étudier, mais je me rends compte de phénomènes très intéressants dans ces langues. Donc, toutes les langues sont belles. Les étudier nous permet par exemple de voir les trésors que ces langues cachent. Donc, voilà.
Il y a 33% de francophones en Côte d'Ivoire, hein, nous dit le rapport sur la langue française dans le monde. Comment ça peut se passer dans le futur, d'après vous, pour la Côte d'Ivoire? Le nouchi peut-il prendre le pas? Le français peut-il disparaître? Comment est-ce que vous voyez la suite?
Alors, difficile de prévoir.
Parce que ça cohabite pour l'instant, mais après.
difficile de prévoir. Les langues, c'est pas mathématique, on peut pas dire dans tel nombre d'années la langue. Mais ce qu'on observe, c'est que le français, il évolue en Côte d'Ivoire. Il évolue en lien avec les nouvelles réalités que les individus, en lien avec les besoins de communication des locuteurs, en lien avec des phénomènes qu'on ne peut pas prévoir. Donc la langue évolue, elle fait chemin, et donc on n'a pas le pouvoir donc de changer la donne. On constate, voilà.
On va se rendre au Tchad, justement, pour constater. C'est un pays où le français est pas tellement parlé, hein, 13% de francophones, mais le français, comme on vient de le dire, coexiste, cohabite avec les autres langues, notamment l'arabe. Reportage Anne Jamena pour RFI, Aurélie Bazara.
Dans ce restaurant branché, perché sur le toit d'un immeuble de la capitale, pas besoin de tendre l'oreille pour distinguer plusieurs langues. Ici, jeunes travailleurs et étudiants passent du français à l'arabe en quelques secondes. Explication à Bakar, un ingénieur de 28 ans.
Ici, au niveau du restaurant, le plus souvent, on parle uniquement l'arabe. C'est une manière de se distraire parce que c'est une langue maternelle et c'est très facile à l'utiliser. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, mais dans le cadre de travail, c'est uniquement la langue française qu'on utilise.
À côté de lui, ses amis sirotent un thé. Et beaucoup disent utiliser aussi leur langue maternelle selon les sujets abordés, comme Laïla, gérante du restaurant Jamena Fast Food.
Je parle kabbalaï en famille quand notre sujet de discussion est un sujet sensible. Il est question de parler des problèmes de la famille et qu'on est parmi plein de monde, on parle de kabbalaï pour ne pas que d'autres personnes ne comprennent.
Même constat pour Youssouf, un écrivain et doctorant. Lui recourt au Kanembu pour bien négocier ses prix au marché.
Je sais que la plupart des commerçants au marché sont des Kanembu. Je pourrais ainsi oser une certaine familiarité. Et là, il va peut-être me recevoir avec beaucoup d'égards et me faire des prix qui sont assez raisonnables.
Au Tchad, le français et l'arabe sont les deux langues officielles, mais plus de 120 autres langues sont parlées à travers le pays. Aurélie Bazar.
Et retour naturel hein, entre les langues Anjamena, joyeux mélange, Jean-Martial Kwame, c'est partout pareil en fait.
C'est pareil. Quand vous regardez par exemple, l'exemple palpable en Côte d'Ivoire, c'est le nouchi. Quand vous observez par exemple le lexique du nouchi, vous avez dans le nouchi de l'anglais, vous avez des langues du terroir, donc du Dioula, du Baoulé, du Guéré, du Bété. Vous aurez par exemple des mots qui sont empruntés par exemple au Lingala. Donc c'est ça le contact des langues, c'est ça le brassage ethno-linguistique, ce que cela produit.
Alors puisqu'on est dans les mélanges, le métissage, je vous propose d'entendre un grand auteur kényan, vous l'avez évoqué, hein, Nadia Yala Kisukidi, anglophone, donc qui traduit Molière en Kikuyu. Le Kikuyu, c'est, je parle sous votre contrôle, hein, Stéphiros Nyot Nyot, la première des quelques 60 langues parlées au Kenya, hein, 7 millions de locuteurs. Ce romancier, c'est donc Ngugi Wa Thiong'o. On le cite régulièrement parmi les Nobelisables. Dans les années 80, il a écrit Décoloniser les esprits, et il dit ce livre est mon adieu à l'anglais. Il décide que désormais il écrira exclusivement en Kikuyu, et il écrit juste un petit extrait. Comment a-t-il été possible que nous, écrivains africains, fassions preuve de tant de faiblesse dans la défense de nos propres langues et de tant d'avidité dans la revendication de langues étrangères? Ça, c'est donc ce qu'il disait à l'époque dans Décoloniser les esprits. Aujourd'hui, près de 40 ans plus tard, eh bien, il défend lui aussi la diversité finalement. On l'écoute.
I believe that all languages.
J'ai la conviction que toutes les langues, y compris les langues européennes, ont une grande richesse culturelle et une grande richesse scientifique. Et j'ai la conviction qu'aucune langue ne doit rester isolée des autres langues. Il faut que nous fassions dialoguer les langues au travers de la traduction. C'est pour cela que j'ai traduit « Le médecin malgré lui » de Molière en Kikuyu. Molière se traduit particulièrement bien en langues africaines. Le médecin malgré lui est tellement drôle en Kikuyu. Le groupe qui va interpréter la pièce part dans des fous rires à chaque fois qu'il lit le texte.
Voilà, Ngugi wa Thiong'o au micro de Laurent Corot. Molière en Kikuyu, on adorerait pouvoir lire ça et le comprendre. Surtout, qu'est-ce que ça vous inspire, Rukyata Ouédraogo?
Qu'il y a plein de possibilités et qu'il faut oser, qu'il ne faut pas perdre.
Ça n'existe pas en Morée encore, le médecin malgré lui en Morée, ça n'a pas encore été fait.
Ah, ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais...
Nadia Kisukidi, sur ce que disait à l'instant Ngugi wa Thiong'o sur le nécessaire brassage finalement.
Mais je pense que ce point il est extrêmement important et je pense qu'il n'est pas forcément en contradiction avec les thèses de décoloniser l'esprit, dans la mesure où ce que disait Ngugi wa Thiong'o dans les années 70, c'était simplement on est confronté à une situation d'impérialisme culturel peut-être liée à la colonisation. Et il n'existe pas, d'un côté, des langues de civilisation qu'il faudrait opposer à des langues barbares. Mais cette thèse-là ne signifie pas, en fait, que ces langues impériales de la civilisation sont des langues laides, sont des langues qu'il faudrait mettre de côté. Ce sont également des langues riches, mais la seule thèse que refuse Ngugi wa Thiong'o, et je pense que ça, il la tient toujours, c'est que les langues africaines ne sont pas des langues du manque, des langues de la privation avec lesquelles on ne peut pas créer. Et maintenant que cette situation d'égalité, peut-être, linguistique est... effective, il est possible de pouvoir enfin rêver dans toutes les langues et de les créoliser, ce que dit la philosophie de la traduction.
RFI, il est 7h44 à Paris.
Journée internationale de la francophonie.
RFI, en édition spéciale.
Nathalie Amar.
Jusqu'à 9h, RFI en direct du siège de l'OIF, une matinée spéciale à suivre également en direct sur les réseaux sociaux avec les hashtags en bon français, mot dièse je crois qu'on dit, RFI matin, Afrique matin. Je vous rappelle à 8h15 l'entretien prévu avec la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo. Laurent Corot, ce qui ressort aussi de ce dernier rapport sur la langue française dans le monde, c'est clairement aussi cette perception du français comme la langue du colonisateur.
Alors oui, une étude a été réalisée dans 6 pays africains, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Sénégal. Une étude pour comprendre comment le français est perçu. Et donc très souvent, ce qui revient, c'est que le français est perçu comme une langue de l'extérieur, comme une langue issue de la colonisation, ce qui est paradoxal dans certains cas, puisqu'on l'a déjà largement évoqué dans cette édition spéciale. À Abidjan, par exemple, le français est devenu une véritable langue d'Afrique. Les populations s'en sont emparées et l'ont enrichi au travers du Nouchi. Cette vision d'une langue de l'extérieur, par ailleurs, se combine suivant les lieux avec des choses qui sont cette fois-ci plus positives. En Côte d'Ivoire et au Gabon, les gens, on parle aussi du français comme une langue riche. Au Burkina Faso, selon l'étude, les populations évoquent aussi une langue de la réussite, de la modernité, de la littérature.
Rukyata Ouédraogo, est-ce que vous l'avez, vous, cette perception du français imposée d'en haut ? Par le colonisateur,
oui,
ou est-ce que c'est plus du tout votre problème?
Non, j'essaie d'avancer. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse voir les bons côtés des choses et puis continuer à travailler cette langue. C'est vrai qu'on a hérité ça du colonialisme, hein, ça c'est sûr. Mm-hmm. Maintenant, moi, je le vois plutôt le français comme une langue qui rassemble. En tout cas, dans mon métier, dans mon travail, c'est plutôt une langue qui me permet d'avancer, de rassembler et de transmettre surtout.
Jean-Martial Kouamé, sur cette idée du français langue du colon qui rappelle effectivement les temps de la colonisation, est-ce que c'est encore très présent, très prégnant?
Ben oui, dans les enquêtes que nous avons eues à conduire, par exemple en Côte d'Ivoire, de manière générale, deux tendances se dégagent, donc des positionnements des individus ou des locuteurs vis-à-vis du français, donc une tendance, un avis favorable vis-à-vis du français, donc comme la langue d'ouverture, la langue qui permet donc le rayonnement international, la langue qui permet la réussite sociale, la réussite scolaire, la réussite professionnelle. Donc il y a cette perception favorable à la langue française, mais il y a également une tendance défavorable, on va dire, vis-à-vis du français. Donc toujours la langue du colonisateur, la langue qui fait de l'ombre au développement des langues ivoiriennes. On peut le voir rapidement à travers les différentes constitutions de la République de Côte d'Ivoire. Toujours, c'est martelé, le français, la langue officielle, et rien n'est dit au sujet, par exemple.
Et ça ne passe plus aujourd'hui.
Oui, on l'a observé dans les réponses que les enquêtés ont pu nous donner par rapport à ces questions-là.
Voilà. C'est-à-dire que c'est aussi une question des pays d'Afrique, de reconnaissance de leur propre patrimoine linguistique leur inscription, finalement, dans les textes fondamentaux, dans les constitutions.
Dans certaines constitutions, il y a la mention...
Lesquelles, par exemple?
Dans
dans la constitution, je crois, du Sénégal, on vous dit telle langue ont le statut de langue nationale. Voilà. Mais souvent, les décideurs ne vont pas plus loin que ça. Plus loin que ça. Donc, il n'y a pas de loi qui prévoit un aménagement linguistique clair, une promotion ou une vulgarisation de ces langues-là. Donc, voilà.
Donc, c'est une préoccupation qui n'est pas encore présente au niveau, finalement, des différents gouvernements. Et si je comprends bien, vous le déplorez.
Il y a la préoccupation, mais il faut les comprendre aussi. Il y a la peur de susciter, par exemple, des animosités interethniques et tout ça. Vous avez vu la situation de la Côte d'Ivoire avec les problèmes de cohésion sociale. Donc les gouvernants très souvent sont tiraillés par ces questions-là. Donc on peur,
parce que la question est aussi évidemment très politique.
Ben oui, tout à fait.
Nadia Yalakisouki dit sur ce point.
Sur ce point, il y a énormément de choses à dire, mais j'aimerais aussi qu'on puisse renverser la perspective, c'est-à-dire se dire, mais est-ce que en France, à Paris, on ne considère pas aussi que le français est la langue du centre. Parce qu'on voit aussi la manière dont on se rapporte aux accents, parce que la langue, c'est aussi les accents avec lesquels on la parle. Que vous veniez de Belgique, de Suisse, on va toujours vous reprocher, par exemple, de parler un français qui n'est pas le bon français. Donc, il y a toujours quelque chose d'assez normatif dans notre rapport au français, qui, au-delà de la question de la colonisation, quand il s'agit du français qui voyage dans d'autres pays, fait que, quand on se rapporte à la langue française, on imagine toujours, finalement, que son centre, la manière, ses codes, ses normes, en fait, le bon parler, en fait, est dicté à Paris. Et je pense aussi qu'il faudrait pouvoir déconstruire la manière qu'on a de se rapporter à l'idée que le français est la langue du centre, la langue d'un pays, qui se serait ensuite diffusée ailleurs.
Parce que la langue française a écarté, ou en tout cas mis à la périphérie, les langues régionales. Et d'ailleurs, c'est un combat qui ressurgit régulièrement sur la scène politique en France.
C'est un combat qui ressurgit, et ce qui est intéressant, c'est de montrer que cette langue, maintenant, est une langue polycentrique. Elle est parlée au Canada, elle est parlée en Suisse avec ses histoires propres en fait, et donc il faudrait accepter peut-être aussi ici que le français que nous parlons ici en France est un français créolisé, c'est déjà un autre français parmi d'autres types de français qui se parlent dans le monde, et c'est ça vraiment je pense penser la francophonie, c'est essayer de considérer en fait que le centre du français c'est la France et qu'ensuite il y aurait eu diffusion par dégradation dans d'autres pays.
Stéphie Rose-Niotiot, vous avez le sentiment vous de parler un français créolisé aujourd'hui ou au contraire pas du tout? Ou un français centralisé et très parisien.
Comme l'a dit Jean-Martial tout à l'heure, les langues sont constamment en mouvance. Donc effectivement, le français que je parle est assez métissé. Surtout si je le compare au français du Québec où j'ai notamment étudié. Donc je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un français, disons, standard ou un bon français à partir du moment où la francophonie est un vaste territoire.
Alors on va se rendre, si vous le voulez bien, au Sénégal, un quart de francophones en gros dans ce pays. Un développement très fort de l'usage du Wolof ces dernières années, dans le quotidien, dans les médias aussi. Écoutez ce qu'en dit le conteur sénégalais Massamba Bagay que notre correspondant à Dakar, Guillaume Thibault, a rencontré.
Lorsqu'on entre dans une boutique, lorsqu'on arrête un taxi, le premier réflexe, ce n'est pas de lui parler français. Au tribunal, facilement, on interpelle en Wolof. Dans les communiqués aujourd'hui, quand 6 communiqués sont en français, ils sont immédiatement traduits en Wolof. Donc ce n'est plus la langue immédiate de promotion sociale, c'est devenu une langue de contact qu'il faut apprendre par nécessité. Si on entend ces jeunes qui disent « la France dégage », si on aime le français, il faut lui permettre d'avoir ce visage de langue universelle, de langue de culture surtout, et de langue de valeurs humaines et de droits de l'homme. C'est sous cet angle-là que la France pourra faire de sorte qu'on comprenne que l'acquisition du français permet d'être en connexion avec un espace plus grand, qui est l'espace de la francophonie, mais un espace d'abord culturel avant d'être un espace politique.
Voilà, un espace culturel, un espace politique, le français qui doit redevenir la langue des droits de l'homme. Rukyata Ouédraogo, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue de Massamba Gueye?
Oui, je pense.
Est-ce qu'il y a aussi une notion de valeur à défendre derrière l'usage de cette langue, ou est-ce que ça c'est un débat du passé?
Je pense que non, il a tout à fait raison. Enfin, c'est sa vision et je pense que oui, il faut défendre en fait la langue française. C'est important puisque c'est la langue avec laquelle aujourd'hui, en tout cas moi, dans mon cas, dans ce que je peux dire, c'est la langue avec laquelle je partage ce que je sais, mon savoir. Mm-hmm. Pour moi, oui, il faut absolument la défendre.
Stéphie Rose, Est-ce qu'il y a eu
sans oublier non plus les langues verlaculaires. Hein, donc du coup, oui, c'est sûr.
Stéphie Rose, ouais. Sur ce point
Moi, comme je disais plus tôt, j'ai pu me réapproprier la langue bassa à travers le français. Et on a reçu beaucoup de messages justement de personnes issues de la diaspora, de métissage ou qui simplement n'ont pas vraiment vécu longtemps dans leur pays d'origine, qui veulent réapprendre leur langue. Et pour apprendre une langue, on a toujours besoin d'une langue support. Et quand on compte le nombre de pays francophones en Afrique, on comprend que le français est quelque part une chance pour cette réappropriation culturelle.
Alors c'est vrai, et on aura d'ailleurs l'occasion d'y revenir à partir de 8h30 quand on évoquera plus spécifiquement la question de l'enseignement du français en interaction justement avec les langues africaines. Le français, langue des droits de l'homme, Nadia Yala Kisukidi.
Alors je pense toujours à tous ces textes qu'a écrit Senghor au moment de la fondation de la francophonie. Et c'est vrai que pour lui, quand il pensait justement le français, il s'agissait de penser une langue de valeur, qui porte des valeurs tout à fait précises. On connaît ces mots de Senghor. Le français, c'est une des langues de l'universel. Moi, je suis un peu réticente à ces approches, puisque je ne crois pas que les langues portent des valeurs. Je pense que ce sont les usages qu'on fait des langues qui vont ensuite nous permettre de défendre soit les droits de l'homme, soit autre chose. Je peux tout à fait vous dire quelque chose de terrible en français qui soutiendra des orientations extrêmement fascisantes, comme je peux vous dire les plus belles choses avec cette langue qui vont défendre l'ouverture. Donc les langues ne sont pas en elles-mêmes des valeurs, mais c'est ce que nous en faisons. C'est-à-dire qu'en gros, on peut avoir une politique du français qui va défendre les droits de l'homme, comme on peut avoir une politique de diffusion de la langue française qui dira autre chose. C'est une vraie question politique qui n'est pas interne à la manière dont nous mobilisons et nous vivons les langues.
Et c'est une question évidemment que nous poserons à la nouvelle secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, tout à l'heure. Jean-Martial Kouamé, peut-être un mot sur ce point de la défense des libertés, la défense des droits de l'homme. Est-ce que c'est étroitement associé aux Français ou est-ce que finalement le problème est ailleurs?
Moi je pense que le problème est ailleurs. C'est juste, je vais dire, une langue qui sert de trait d'union entre des pays, entre des individus. Et pour moi, cette question de langue qui porte des valeurs, comme elle le disait tout à l'heure, une langue, elle ne vaut que par ce que les locuteurs en font. Voilà.
Merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. On va vous saluer, Jean-Martial Kouamé. Vous nous quittez pour mieux revenir, en fait, hein, tout à l'heure, puisque vous serez dans un peu plus d'une heure avec Pascal Paradou pour une émission spéciale d'appel sur l'actualité. Cette matinale spéciale se poursuit avec nos invités Rukyata Ouedra Ogo, Stéphie Rose, Nyot Nyot, Nadia Kisukidi. On va parler, je le disais tout à l'heure, de l'enseignement du français. On verra qu'on l'apprend mieux d'ailleurs ce français quand on a commencé par apprendre sa langue maternelle à l'école, celle que l'on entend à la maison. Matinale à suivre, je vous le rappelle, sur les réseaux sociaux RFI Matin, Afrique Matin, sur Facebook et Twitter. Dans un quart d'heure à suivre sur la page Facebook d'RFI, notre entretien avec la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, ici en direct du siège de l'organisation à Paris. Dans un peu plus de 2 minutes sur RFI, le journal, ce sera en compagnie d'Andréane Mellard. À tout de suite. We'll be right back.
Rendez-vous au Théâtre de l'Aquarium pour découvrir ou redécouvrir les chaises d'Eugène Ionesco dans une mise en scène de Bernard Lévy. Un homme et une femme cherchent à recoller des morceaux de souvenirs et à mener un grand projet. Une version bouleversante d'un des grands classiques du XXe siècle. Du 19 mars au 14 avril, plus d'informations sur théâtredelaquarium.net. En partenariat avec RFI.
Parcourez le site RFI Savoir.
Découvrez la bibliothèque virtuelle de RFI pour tout comprendre sur l'histoire, les sciences, l'économie, l'environnement, la santé et bien d'autres sujets. Plongez dans les dossiers pour approfondir vos connaissances ou faites les activités d'écoute pour apprendre et enseigner le français sur savoir au pluriel .rfi.fr.
RFI Savoir, les clés pour comprendre le monde en français.
De vive voix, Pascal Paradou.
Une émission consacrée à la langue française dans le monde et aux cultures orales, avec des écrivains, des poètes, des traducteurs, des historiens, des linguistes, des ethnologues, pour raconter la langue telle qu'elle s'écrit et se parle, se déclame, se murmure, se blablate, s'invente.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU, sur RFI.
Hey, 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 restez connectés sur RFI avec Juliette Fievé pour Légendes Urbaines.
Légendes Urbaines, Juliette Fievé.
Hello la famille, je vous donne rendez-vous avec les plus grandes légendes des cultures urbaines mondiales qui viendront à la maison vous raconter leur parcours sous un autre angle, juste pour vous, dans Légendes Urbaines.
Légendes Urbaines, avec Juliette Fievé.
Ok.
Tous les dimanches à 21h10 TU.
Parce que la rue a une voix.
Sur RFI.
Vous écoutez Radio France Internationale, il est 7h à Dakar et en temps universel, 8h ici à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez. Matinale direct en direct de l'OIF ici à Paris. Dans un quart d'heure, notre invitée Louise Mouchiki-Wabo, secrétaire générale de la Francophonie, sera notre invitée. Mais d'abord, c'est le journal. Bonjour Andréane Mellard.
Bonjour Nathalie et bonjour à vous qui écoutez RFI. À suivre dans ce journal, Londres toujours dans l'impasse à 9 jours maintenant de la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union Européenne, pendant que les pour et les contre Brexit se déchirent dans et devant le Parlement britannique. Theresa mais envisage un report. Demain, les 27 vont se prononcer sur la question. On en parle avec notre correspondant dès le début de cette édition. En Algérie, de nouvelles manifestations hier et puis le bilan s'alourdit au Mozambique après le passage du cyclone Idai. Les autorités parlent de 200 morts, un chiffre qui devrait encore s'alourdir dans les heures et les jours à venir. 9 jours. Dans 9 jours, le Royaume-Uni est censé quitter l'Union européenne. Seulement, plus les heures passent, moins ce scénario semble possible. Le dossier est dans l'impasse. Le texte d'accord négocié avec l'Union européenne a été rejeté par 2 fois par les parlementaires britanniques. L'UE l'a dit. 2 ans après le vote, Londres a usé toutes ses cartes. Hier à Westminster, les réunions se sont enchaînées pour tenter de trouver une solution à la crise. Reportage tout de suite devant le Parlement britannique, où les pros et les anti-Brexit arborent badges, pancartes et drapeaux. Béatrice Leveillé.
Les Brexiteurs se sentent trahis par les parlementaires, ils ne cachent pas leur colère et les discussions avec les anti-Brexit s'enflamment très vite. La crise politique dans laquelle s'enfonce le Royaume-Uni rebat les cartes. Un militant pro-Brexit comme Richard, déçu par Theresa May, rappelle sur un grand panneau que les travaillistes ont voté majoritairement en faveur du Brexit et il compte maintenant sur Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition et leader du Parti travailliste, pour défendre ses idées.
Jeremy Corbyn a passé toute sa carrière à faire campagne contre l'Union européenne. Pour pouvoir diriger son parti, il a adopté une ligne plus pro-européenne. Mais au fond de son cœur, il veut partir, c'est certain.
Louise, qui bat le pavé devant le Parlement depuis des semaines pour contrer le Brexit, est ulcérée par le jusqu'au boutisme de Theresa May.
C'est humiliant de présenter 3 fois son accord devant le Parlement et de pousser les députés à l'adopter. C'est scandaleux et antidémocratique.
La chef du gouvernement britannique laissera lundi prochain les députés débattre du Brexit. Mais elle n'a pas abandonné l'idée de leur faire adopter l'accord qu'elle a âprement non négocié avec les 27. Béatrice Leveillé, Londres, RFI.
Londres dans l'impasse, l'option envisagée maintenant par Theresa May, c'est le report du Brexit. On retrouve tout de suite notre correspondant à Bruxelles. Bonjour Pierre Benazé. Alors, la première ministre britannique va demander ce report dans une lettre à la veille d'un sommet européen.
Effectivement, et Donald Tusk, le président du Conseil européen, attend de pied ferme cette lettre, mais le suspense reste complet quant à la durée de l'extension qu'elle compte demander, étant donné la confusion totale à Londres. Et cette confusion britannique amène aussi des tiraillements entre Européens. Donald Tusk préconise, pour sa part, une extension de longue durée du délai, avant la sortie du Royaume-Uni de l'UE, par exemple, jusqu'à la fin de la période prévue pour la transition, c'est-à-dire le 31 décembre 2020. Mais il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que le négociateur en chef, Michel Barnier, qui martèle que cette extension devrait être justifiée et qu'elle ne fera que prolonger l'incertitude. Je vous propose de l'écouter.
Ce qui est notre responsabilité, c'est de rappeler qu'une extension doit être utile, parce qu'une extension, c'est une prolongation de l'incertitude qui a un coût pour tout le monde. Et on ne peut pas prolonger cette incertitude sans avoir de vraies raisons.
On disait beaucoup jusqu'ici que les Européens seraient, quoi qu'il arrive, disposés à repousser du 29 mars au 1er juillet la date de sortie, c'est-à-dire avant la prestation de serment des nouveaux députés européens. Mais ce ne semble plus être le cas, en particulier pour la France. Certains estiment aussi que, sans la crainte d'une sortie sans accord le 29 mars, Theresa May n'aurait plus d'arguments massus, plus de chiffon rouge pour convaincre les communes de voter l'accord de sortie. Raison de plus pour les Européens de renâcler à reporter la date.
Pierre Benazé qui nous parlait de Bruxelles ce matin. L'Algérie toujours dans la rue, c'est la quatrième semaine de manifestations consécutives dans le pays. La colère vise toujours le pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Hier, c'était les étudiants, les médecins et même les pompiers qui ont battu le pavé. Ils étaient plusieurs milliers rassemblés dans différentes villes du pays. Des étudiants qui, au fur et à mesure, affinent leurs revendications. Reportage à Alger, Leïla Berato.
Malgré les vacances imposées au dernier moment par le ministère de l'Enseignement supérieur, Jihan se rend à l'école d'agronomie tous les jours où des cours un peu particuliers sont dispensés.
C'est beaucoup plus pour la prise de conscience, c'est des cours qui virent un peu vers tout ce qui est politique, pour acquérir certaines connaissances que nous ne connaissions pas, mais que maintenant les étudiants veulent savoir et s'intéressent plus à connaître. Par exemple, l'esprit de groupe, la politique algérienne, la constitution algérienne, l'économie algérienne, entre parce que c'est très important et c'est lié.
Rami, 23 ans, lui, est étudiant à l'université de Beb Zouar, le plus grand campus du pays. Pas de cours non plus, mais la manifestation du mardi n'est qu'un événement au cours de sa semaine de mobilisation.
On a fait un nettoyage de la fac, on discute entre étudiants, on voit les solutions, on discute du pays, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, ces manifestations, ça ne suffit pas, mais il y a de petites choses qui changent. Maintenant, les gens sont tous pareils, ils travaillent tous ensemble, on a tous l'Algérie dans le cœur. Ça, c'est une bonne chose pour que l'Algérie se développe.
Rami, Jihan et des milliers d'autres étudiants ont défilé ce mardi toute la matinée pour demander le départ des autorités et le respect de la Constitution. Tous les deux affirment qu'ils retourneront manifester la semaine prochaine. Leïla Berato, Alger RFI.
Plus de 200 morts au Mozambique, c'est le nouveau bilan dévoilé hier par le président du pays. Bilan après le passage du cyclone Idai. Toujours, d'après le dirigeant, près de 350 000 personnes se trouvent en ce moment dans des zones inondées. Des régions entières ont été dévastées. Deux autres pays de la zone ont été touchés. Au Zimbabwe, le cyclone aurait fait 98 morts et près de 200 disparus selon les autorités. Le Malawi également touché. Aucun bilan n'a été donné pour le moment. Des échauffourées hier entre des jeunes et des policiers anti-émeutes aux abords de certains lycées d'Abidjan en Côte d'Ivoire, des lycées où les cours avaient repris ou devaient reprendre ce matin après deux mois de grève des enseignants, ce alors que le mouvement perdure dans de nombreux établissements du secondaire et apparemment la Fédération étudiante et scolaire de Côte d'Ivoire ne l'entendait pas de cette oreille. Pierre Pinto.
Cargo, canons à eau et grenades lacrymogènes, la police anti-émeute était déployée en nombre autour de certains lycées ce mardi matin. La veille, la FESI avait prévenu, si les cours ne reprenaient pas, elle mènerait des actions de grande ampleur. Elle a donc décidé de déloger les élèves des lycées qui fonctionnaient ce mardi à Abidjan, comme au lycée classique de Cocody ou encore au lycée moderne où devait se tenir le bac blanc de maths, Kevin est en terminale.
On a commencé à composer 20 minutes après. Les étudiants sont arrivés pour demander qu'on sorte des classes parce que non, il y a des écoles, il n'y a pas cours et nous on vient. Donc ils disent, comme ils sont élèves et ils pensent aussi à nous, Donc c'est pour cela qu'ils sont venus pour boycotter les examens, pour qu'on saute par les marchés, pour que le gouvernement prenne une décision.
Des élèves priés de quitter leur établissement également à Trècheville ou Coumassi, entre autres. Pour la fessie, en tout cas, il s'agit d'actions spontanées des élèves eux-mêmes. Explication d'Assis Fulgence Assis, le secrétaire général du syndicat, qui ne voit pas d'antagonisme à provoquer une grève contre la grève à quelques semaines du bac et du BEPC.
Ce n'est pas deux étudiants qui sont allés dans des établissements pour déloger. L'ensemble des élèves a compris qu'il fallait avoir un sursaut de solidarité envers ceux qui ne vont pas à l'école depuis 2 mois pour inviter les autorités à prendre cette question-là au sérieux et de véritablement trouver des solutions. Ce n'est pas nous qui pénalisons. Je dis même le système est arrêté, il n'y a pas coup dans la plupart des établissements. Ce n'est pas nous, il ne faut pas mettre la faute sur nous. C'est le gouvernement qui doit prendre des démarches.
Lancée pour une série de revendications catégorielles, cette grève des enseignants du secondaire, un temps rejoint par ceux du primaire, dure depuis maintenant 2 mois et chaque jour qui passe fait grandir pour les élèves le risque d'une année blanche. Pierre Pinto, Abidjan RFI.
30 ans plus tard, Nursultan Nazarbayev a annoncé hier son départ de la présidence du Kazakhstan. Alors il ne redonne pas toutes les clés, hein, puisqu'il disposera toujours de pouvoirs étendus. Grâce à une loi votée en 2018, le Conseil de sécurité dispose d'un statut constitutionnel, ce qui autorise Nursultan Nazarbayev à diriger ce conseil jusqu'à sa mort. Le Kazakhstan, pays d'Asie centrale aux ressources importantes, est confronté depuis plusieurs mois à une crise économique et une grogne sociale. Lui garde ses fonctions. Le pape François a refusé hier la démission du cardinal Barbarin au nom de la présomption d'innocence. L'archevêque de Lyon a tout de même prévu de se mettre en retrait du diocèse de Lyon quelque temps. Le cardinal Barbarin a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels d'un prêtre. Cette décision du souverain pontife entraîne évidemment la colère des victimes. Le porte-parole de l'association La Parole Libérée est sidéré.
C'est scandaleux après tout ce qui s'est dit, tout ce qui a été fait, le jugement qui est vachement bien étayé, même si bon, le cardinal a fait appel. Mais que le pape se positionne de la sorte en refusant sa démission, c'est quand même assez... Assez terrible, quoi. Et je viens de recevoir beaucoup de messages de victimes qui sont complètement choquées de voir ça. Et il n'y a pas que des victimes qui sont choquées de voir ça. Donc la réaction, elle est un peu scandalisée, quoi. Au final, voilà, c'est une goutte d'eau de plus, un peu d'huile en plus sur le feu qu'ont les victimes en elles de tous ces abus et de toutes ces rebondissements judiciaires qui nous ruinent psychologiquement, qui nous ruinent financièrement, qui nous ruinent moralement. Donc c'est une goutte en plus, voilà, que l'Église met du mauvais côté, et je trouve ça dommage, quoi. Parce que là on parle du pape, on parle plus d'un évêque ou d'un archevêque. Là c'est carrément le sommet de l'Église qui vous dit je regarde pas plus que ça ce qui vous arrive. Alors que dans le même temps le cardinal vous dit qu'il prie pour les victimes du père Prénat. C'est quand même assez ambigu. C'est scandaleux, quoi. Beaucoup de victimes sont choquées de tout ça.
Pierre-Emmanuel Germain a-t-il, il était interrogé par Pierre-Olivier. Pas de présomption d'innocence pour le Roundup. La responsabilité de l'herbicide est avérée dans le cancer d'un septuagénaire américain. C'est un jury qui a pris cette décision hier. Nouvelle gifle infligée au géant Monsanto et son désherbant fait à base de glyphosate. Ainsi s'achève la première phase de ce jugement entamé le 25 février. La deuxième phase va s'intéresser à la responsabilité de Monsanto dans cette affaire. La complicité affichée hier entre Donald Trump et Jair Bolsonaro à la Maison-Blanche, c'est la première visite officielle du nouveau président brésilien à l'étranger. Jair Bolsonaro, dont l'admiration pour le président américain n'est plus un secret. Deux hommes, deux dirigeants et beaucoup de points communs entre les deux. Anne Corpé.
Nous allons avoir une relation de travail fantastique. Nous partageons beaucoup de points de vue, entame Donald Trump. J'ai toujours admiré les États-Unis et encore plus depuis que vous êtes élu, lui répond Jair Bolsonaro. D'emblée, les deux chefs d'État affichent leur unité. Ils partagent, il est vrai, le même goût de la provocation, les mêmes réserves sur le multilatéralisme, perçoivent l'immigration comme une menace et dénoncent avec virulence toute politique qui se rapproche du socialisme. Les deux chefs d'État plaident tous deux pour le départ rapide du président vénézuélien et le président américain menace de sévir. Nous n'avons pas encore pris les sanctions les plus dures. Toutes les options sont sur la table, assure Donald Trump. Interrogé sur une possible intervention militaire américaine, Jair Bolsonaro préfère botter en touche. Si l'on parle de certaines questions, elles ne sont plus stratégiques, donc ces questions ne seront pas évoquées en public, élude le président brésilien. Les deux hommes annoncent une coopération renforcée entre leurs deux pays. La veille de sa rencontre avec Donald Trump, le président brésilien a signé un accord pour permettre le lancement de satellites commerciaux américains de la base d'Alcantara, située près de l'Équateur. Anne Corpé, Washington, RFI.
Et vous l'entendiez, unité affichée hier entre les deux dirigeants concernant le Venezuela. Hier à Caracas, le Parlement vénézuélien, seule institution contrôlée par l'opposition, a garanti par un texte aux militaires la conservation de leur grade en cas de nouveau gouvernement si ces derniers acceptent de rompre avec le pouvoir. Au Nicaragua, l'opposition refuse de reprendre le dialogue avec le gouvernement de Daniel Ortega. En cause, l'opposition dénonce la répression du pouvoir contre les manifestants, notamment samedi dernier à Managua. Les protestataires réclamaient la libération des prisonniers politiques. Une centaine d'entre eux ont été arrêtés. Et puis aux États-Unis, le Parlement du Mississippi a adopté ce mardi la loi la plus contraignante des États-Unis concernant l'avortement. Du nouveau en librairie, le tout premier guide touristique de la Corée du Nord a fait son entrée dans les rayons. La dictature essaie d'attirer les touristes et leurs devises étrangères, bien utiles pour un pays sous embargo. Mais les précautions sont nombreuses pour quiconque désire s'y aventurer. Gabriel Maréchaux.
Le premier guide mondial du touriste en Corée du Nord commence par un bien étrange avertissement.
Il n'est pas évident que ce guide puisse être introduit en Corée du Nord. Toute littérature qui représenterait les choses d'une manière non conforme à la doctrine du régime politique n'est pas acceptée.
Mais ce n'est finalement pas très grave, assure Dominique Ozias, un des fondateurs du Petit Futé, car la plupart des lecteurs ne feront pas le voyage.
Les guides de voyage sont pour une grande partie destinés aux gens qui veulent connaître un pays, mais qui n'ont pas les moyens d'y aller, mais qui veulent savoir que ce qui est intéressant, que ce soit au niveau de l'histoire ou de la géographie ou de la faune, de la flore.
Ces lecteurs immobiles pourront par exemple apprendre que Kim Jong-un a le titre de grand soleil du 21e siècle ou que la zone démilitarisée est une réserve étonnante de biosphère. Et pour les rares qui tenteront le voyage, des conseils pratiques, ne jamais plier un journal où le dirigeant nord-coréen est en couverture, ne pas photographier une statue de dos, autant d'interdictions qui seront de toute façon rappelées aux touristes, jamais seuls en Corée du Nord.
Il est entouré d'interprètes, de guides qui sont là pour vous expliquer, un peu comme dans une centrale nucléaire, tout est interdit sauf ce qui est autorisé.
Ils sont environ 100 000 à faire le voyage chaque année, des touristes chinois pour la plupart, mais ambitieuse, la Corée du Nord souhaiterait en accueillir 2 millions en 2020.
8h15 à Paris, je vous laisse en compagnie de Nathalie Amar pour la suite de notre édition spéciale.
Merci Andréane Mellard, à tout à l'heure.
Journée internationale de la francophonie.
RFI en édition spéciale.
Nathalie Amar.
Et oui, RFI jusqu'à 9h en direct du siège de la francophonie à Paris. Et pour le prochain quart d'heure jusqu'à 8h30, nous sommes avec notre invité. Bonjour Louise Mouchiki-Wabou.
Bonjour.
Cet entretien est à suivre en direct, en live, en bon français, n'est-ce pas, sur notre page Facebook. Vous avez succédé à Michaël Jean comme secrétaire général de la francophonie en janvier dernier, après avoir été désigné par consensus au sommet d'Erevan, c'était en octobre. Vous êtes la première femme africaine à occuper ce poste. Vous avez vécu longtemps aux États-Unis, vous avez été pendant 9 ans ministre des Affaires étrangères du Rwanda et vous êtes, Louise Mouchiki-Wabou, une adepte de ce multilinguisme dont on parle depuis une heure dans cette émission. L'anglais, dans lequel vous avez écrit un ouvrage, le français, le Kinyarwanda, le Swahili, comment est-ce que tout ça s'articule chez vous, dans votre tête?
Écoutez, je suis non seulement une adepte du multilinguisme, mais c'est aussi la réalité du monde aujourd'hui. Beaucoup de francophones, à travers notre espace, parlent de plus en plus d'autres langues, pour parfois des raisons économiques, parfois des raisons de facilité d'éducation. Et moi, personnellement, je suis à la fois le produit et, si vous voulez, un canal de transmission de plusieurs langues. Je viens d'une partie de l'Afrique, le Rwanda, mon pays, est entre l'Afrique centrale francophone et l'Afrique de l'Est anglophone. On parle swahili, on parle français, on parle anglais. Quelques-uns même parlent lingala.
Et il y a quelque chose de naturel à ça, à ce brassage, comme on le disait tout à l'heure avec nos invités.
Tout à fait, c'est naturel, mais c'est aussi une sorte de réveil par rapport à plusieurs francophones. Il faut aller au-delà d'une langue, même si on reste très très attaché à la langue française.
Vous parlez de réveil. Il y a 300 millions de francophones aujourd'hui dans le monde. On l'a dit, hein, essentiellement sur le continent africain. Au-delà de, je dirais, cet atout démographique qui fait qu'en 2050, eh ben, il y aura peut-être 400 ou 700 millions de francophones sur la planète. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, en 2019, pour défendre la place du français ?
Moi, je n'aime pas tellement donner l'impression qu'on va en guerre contre d'autres langues. Donc, défendre la langue française, peut-être pas, mais faire rayonner la langue, s'assurer de la présence de notre langue dans différents domaines d'éducation, des affaires, de la science, c'est important.
Mais faire reconnaître le français, par exemple, dans les institutions internationales, c'est un combat qui vous intéresse, ou vous dites finalement c'est pas ça le problème, mieux vaut se concentrer sur le français ailleurs que dans les institutions internationales?
Non, ça c'est un combat qui fait partie de mon mandat aussi. Le fait que la langue française, qui traditionnellement est d'ailleurs la langue des institutions diplomatiques internationales, c'est une réalité qui évolue. Parce que le monde est pressé et c'est plus facile de dire...
Et le français est trop compliqué.
Le français n'est pas vraiment compliqué, mais il y a une perception qu'on doit casser, nous, en tout cas ici à la francophonie, et aussi tous nos locuteurs, c'est de donner l'impression que la langue française est une langue un peu ésotérique, de l'élite, de la littérature, et il faut absolument bien parler français. Nous, on veut surtout communiquer avec la langue française. Et c'est cet aspect de la langue, cette année, avec notre slogan, c'est ça notre message, qu'on fasse un effort, qu'on soit conscient du fait que ce qu'on dit facilement en anglais, on peut le dire en français.
Alors communiquer, Louise Mushikiwabo, ça passe évidemment aujourd'hui par Internet. Il y a un gros enjeu là de la présence du français sur le net. Je crois que c'est la quatrième langue. C'est ce qu'indique le rapport annuel. Comment faire pour pousser là aussi l'usage du français sur les réseaux sociaux, sur le net ?
On va vers la jeunesse. La jeunesse est très très présente sur le net. La jeunesse aussi est une grande caractéristique de l'espace francophone. Alors nous, dans notre travail quotidien, et bien évidemment, on est en train d'étudier les stratégies, c'est vraiment de nous assurer que notre jeunesse francophone, qui est très très présente sur le net, soit présente beaucoup plus en français.
Mmh. Mais la jeunesse aussi se détourne parfois du français, y compris, et on l'a entendu tout à l'heure, parce qu'elle est perçue comme la langue qui a été imposée d'en haut, imposée par la colonisation.
Attention, hein, moi je suis connue pour être très très fortement contre la colonisation. Je trouve que c'est une grande injustice dont on ne veut même plus parler. Mais la langue française a été adoptée par nous, les pays colonisés. Nous l'avons faite notre langue. Et nous avons, dans nos systèmes éducatifs, en tout cas sur le continent africain, où 30 pays sont quand même membres de notre organisation, cette langue fait partie de nous. Donc, nous avons, si je peux ainsi m'exprimer, pris cette langue du colonisateur. Nous l'avons adoptée, nous l'avons adaptée à notre vie. Nous lui avons donné nos accents, nos saveurs, et désormais, elle nous appartient aussi.
Donc, elle est déconnectée pour vous de tous les enjeux politiques. On parle du rayonnement de la France, du rayonnement même politique de la France. Pour ça, pour vous, c'est du passé, ça ?
Non, je pense que ce serait malhonnête de dire que la langue française, en tout cas dans les pays du Sud, est totalement libérée des aspects politiques. Les enjeux mondiaux aujourd'hui sont surtout menés par les grands pays, dont la France, qui est le pays qui nous a donné la langue française. Mais les choses changent et le monde change.
Et on peut dire aussi que le choix de votre personnalité, votre passé aussi, est un choix politique, finalement.
J'espère, parce que moi, je me suis présentée pour ce poste. J'ai voulu être ici parce que je trouve que c'est un beau défi pour moi. J'ai grandi francophone, j'ai appris l'anglais, j'ai fait mes études supérieures en anglais, j'ai fait un diplôme en français aux États-Unis d'Amérique. J'ai vécu un peu partout dans le monde, mais je me réclame francophone et je suis en tout cas très très à l'aise dans mon poste. J'aimerais aussi que la langue française puisse vraiment aller avec les temps. On n'a pas de complexe à avoir. Mais nous devons occuper notre place.
Louise Mushikiwabo, sous votre mandat qui débute à peine, hein, on le rappelle, la francophonie aura-t-elle vocation à défendre les droits de l'homme ?
Mais la francophonie a déjà cette vocation.
C'est présent dans la charte de l'organisation. Hein. Il est question d'aider à l'instauration, au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion, au règlement des conflits, au soutien à l'état de droit et aux droits de l'homme. C'est aussi votre combat ?
C'est une grande partie du mandat que j'ai. C'est un travail qui se fait déjà à la francophonie. Moi, je viens juste d'arriver, mais cette institution existe depuis longtemps et ce travail continue.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Si, par exemple, demain, un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a déjà frappé à la porte de la francophonie, frappe à nouveau, sachant que le pays emprisonne ses opposants, les condamne à de très lourdes peines et parfois même à la peine de mort, est-ce que vous serez favorable à l'entrée de pays de ce type dans l'organisation de la francophonie ?
Ce n'est pas par mes fonctions passées de ministre des Affaires étrangères que je ne vais pas attaquer un seul pays. La réalité,
mais est-ce qu'il y a des lignes rouges et est-ce que la francophonie doit être ouverte à tout prix ?
Je pense que la vocation de la francophonie, c'est d'accompagner les pays, de faire en sorte que cette culture de démocratie, des droits, soit une culture partagée dans notre espace. C'est ce que nos textes nous disent. Et donc, pour moi, je n'ai pas d'approche punitive, j'ai plutôt une approche d'essayer d'attirer d'abord les États qui sont déjà membres, mais ceux qui veulent adhérer aussi vers cette culture qui a été voulue par les pères fondateurs de la francophonie. Et donc, pour moi, c'est une question de... Bon, bien évidemment, l'adhésion des pays va par certains critères. Vous aurez remarqué aujourd'hui que la francophonie, qui a 88 États et gouvernements, mais c'est des États et gouvernements qui ont différents modes démocratiques et de gestion. Et pour moi, l'important, c'est de nous assurer que nos États membres suivent les valeurs de la francophonie, mais je ne dirais pas qu'ils suivent les valeurs de la francophonie, sinon on les met en prison. On veut que les pays essaye d'aller vers des systèmes démocratiques.
Mais vous n'exigerez pas de brevets de démocratie ou de respect des droits de l'homme?
C'est aux États membres de décider par rapport à l'adhésion. Moi, je suis très ouverte à l'expansion, mais pas n'importe comment. Je trouve que c'est une très bonne chose que la francophonie attire autant de pays, mais il y a des critères. Et donc, pour moi, la discussion, ce n'est pas tellement sur l'Arabie saoudite ou d'autres États, parce que si... on va aller chercher dans l'espace francophone, il y a beaucoup de pays qui ont quand même des problèmes. Et donc, pour moi, il s'agit surtout de dire, voici ce que représente l'espace francophone en termes de démocratie, de droit. Et on va, c'est notre mandat, tout faire pour que ces États et ces membres existants et ceux qui veulent faire partie de nous aillent progressivement vers ces valeurs-là.
Alors, il y a eu, avant votre désignation à la tête de la francophonie, toute cette polémique sur le fait que vous aviez été la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, que vous venez de ce pays où l'opposition, Louise Mushikiwabo, n'a pas beaucoup voix au chapitre. Est-ce que ça n'est pas un handicap, une gêne pour vous ?
Ben, pas du tout. C'est ça, une campagne électorale. Hein. On va quelquefois chercher la petite bête ou la grosse bête. Mais vous savez,
donc pour vous, cette polémique
système
est enterrée.
Cette polémique avait à voir avec l'accession à ce poste. C'est pour cela d'ailleurs que je n'entends plus parler de cela. Je ne sais pas si mon pays est un pays différent aujourd'hui. Pour moi, c'est une polémique de campagne.
En RDC, la crise électorale persiste, hein, on le raconte tous les jours sur Radio France Internationale. Les résultats des sénatoriales sont contestés, hein, par les militants du propre parti du président. Comment voyez-vous justement le rôle de la francophonie dans la gestion des crises? Il y a eu cette tradition défendue notamment par Abdou Diouf d'intervention, de médiation sur certains conflits précis. Est-ce que c'est aussi votre vision du poste?
Je peux vous assurer que le rôle politique de la francophonie est un rôle qui continue. Dans les 2 mois et demi que je suis en poste, je suis déjà en contact avec plusieurs chefs d'État sur des questions de politique interne. Mais personnellement, et je pense pour la francophonie aussi, c'est d'ailleurs dans nos textes politiques, notamment Bamako, c'est que on ne va pas gérer les pays à la place des dirigeants. On va leur prodiguer des conseils, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le pays, et c'est ça le rôle d'accompagnement dont je parlais. Moi, personnellement, je pense que s'il y a des contestations en RDC ou ailleurs, ça fait partie du jeu démocratique.
La presse vous annonce comme quasiment partante pour Kinshasa, pour la RDC en cette fin de semaine. Est-ce que vous nous le confirmez ce matin, Louise?
Je vous le confirme, je suis très heureuse de fêter cette semaine de la francophonie à Kinshasa.
Il ne sera pas question de politique.
Une grande capitale francophone.
Il ne sera pas question de politique avec le président Tshisekedi?
Non, moi je pense qu'il faut se calmer un peu. La RDC est un grand, grand pays de cette organisation. 80 millions de Congolais qui parle français, et donc pour moi, en début de mandat, je pense que c'est plutôt une obligation de me tenir tout près de ce pays-là. Je l'ai déjà dit. Mais ça n'empêche pas ceux qui veulent spéculer politique de le faire. Hein.
Est-ce que la francophonie a encore aujourd'hui les moyens, j'allais dire même matériels, de déployer des missions d'observation des élections comme ça a pu être le cas par le passé et comme ça n'a pas été le cas justement en RDC récemment?
Les missions de la francophonie en temps électoral sont un aspect très important du travail qui se fait à la francophonie. C'est d'ailleurs une de nos valeurs ajoutées. Je pense que nous en avons d'ailleurs 2 ou 3 qui sont en chemin. Et c'est un travail qui va continuer.
Un dernier mot, Louise Mouchiki-Wabo, de ce qui se passe en Algérie. Alors, je sais que le pays n'est pas membre de l'OIF, mais vous nous parliez tout à l'heure de jeunesse. Je sais aussi que les questions d'emploi, de chômage, de diplômés font partie de vos préoccupations à ce poste. Comment regardez-vous ces manifestations pacifiques, de plus en plus imposantes, contre le 5e mandat, puis contre le 4e mandat et demi?
Écoutez, l'Algérie n'est pas un pays membre de la francophonie, tout d'abord, c'est important.
Oui.
Et donc,
mais c'est un
grand pays francophone, c'est un pays que je connais bien pour avoir travaillé pour et en Afrique. Ce phénomène de protestation, de mécontentement social n'est pas unique à l'Algérie, mais je suis très admirative de la manière dont les Algériens font valoir leur désir politique, s'expriment avec beaucoup de vigueur, mais aussi avec beaucoup de sagesse.
Abdelaziz Bouteflika doit partir ?
C'est aux Algériens de décider. Abdelaziz Bouteflika est un homme qui a fait beaucoup pour son pays. Et c'est entre les autorités algériennes et le peuple algérien de voir ce qui convient. Ici, à la francophonie, on n'a pas d'injonction à donner à l'Algérie. On veut tout simplement que s'il y a une transition vers un autre dirigeant, que ça se passe bien, que ça se passe calmement.
Louise Mouchiki-Wabo, merci d'avoir été avec nous ce matin sur RFI, secrétaire général de la francophonie. Nous sommes toujours en direct du siège de l'OIF à Paris. Cette édition spéciale se poursuit jusqu'à 9h sur RFI et RFI.fr.
Appelez-nous, exprimez-vous. Pascal Paradou.
Pour la Journée internationale de la francophonie, je joue à Rouen et vous jouez à l'Académie française. À vous de nous dire quelles expressions vous utilisez pour dire l'amour, l'amitié, l'angoisse ou par exemple la médisance. Nous on dit tailler un costard et vous
33 9 693 693 70.
Pascal Paradou avec vous au téléphone tout à l'heure à partir de 8h10 TU.
RFI.
Journée internationale de la francophonie.
RFI en édition spéciale.
Nathalie Amar.
RFI en direct du siège de l'OIF à Paris à l'occasion de la journée internationale de la francophonie.
Je ferai apprendre le français à mes enfants. C'est vraiment, le français, c'est une très belle langue. Quand les gens parlent, en tout cas, c'est joli à entendre. Par exemple, au niveau des poèmes, il y a des phrases, ça te donne des émotions, ça t'envoie vraiment, bon, quelque part, quoi. Toi-même, tu t'imagines déjà même dans la scène. Une fois que tu l'apprends, en tout cas, vraiment, tu t'en sors mieux, quoi. Parce que ça permet vraiment de s'exprimer avec beaucoup de gens.
Au micro de Yaya Boudani, cet habitant de Ouagadougou, francophone, donc qui tient à ce que ses enfants, eux aussi, apprennent le français d'ici 9h. C'est justement cet enjeu de l'enseignement du français qui nous intéresse, de sa qualité, de sa capacité aussi à intégrer les autres langues dans les apprentissages. Dépendra évidemment l'avenir du français. On accueille pour en parler un nouvel invité. Bonjour Gilbert Nyangabiré.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président du club RFI de Bujumbura au Burundi, un club qui a fêté ses 10 ans au mois de février. Alors vous êtes à la fois étudiant en master de didactique du français langue étrangère et vous enseignez en même temps le français au lycée de la Komibou. On retrouve à vos côtés la marraine de cette journée de la francophonie, la comédienne Rukyata Ouedraogo, Stéphie Rose Nyot-Nyot, fondatrice de Je parle le Bassa 2.0 et Je parle l'Afrique 2.0. Avant de vous donner la parole, je vous propose un détour par Port-au-Prince. Haïti, le seul pays francophone du continent américain, le français n'y est pas la seule langue officielle. Le créole domine nettement dans les conversations quotidiennes et son usage se diffuse désormais dans des domaines techniques. Le bilinguisme entre donc dans les habitudes et au passage détruit certains préjugés. Reportage Amélie Baron.
C'est avant tout par sa littérature qu'Haïti brille dans le monde francophone. Pour Gary Victor, le plus populaire des écrivains du pays, cette langue, qui fut celle des colons esclavagistes, n'est plus perçue aujourd'hui comme un outil de domination.
Je pense que l'usage du français a augmenté de la même manière aussi que l'anglais et l'espagnol. Cela est dû au fait à une grande diaspora haïtienne qui est en Guadeloupe, Martinique, Guyane, en France. Donc ce qui fait, par exemple, moi je vivais dans un quartier populaire. Dans le temps, parler français dans la rue, c'était mal vu. On te considérait comme un zuzu à l'époque. Mais maintenant, tu vois des jeunes qui passent dans la rue et qui parlent français. Et ça ne gêne plus personne de la même manière qu'ils pourraient parler anglais ou espagnol. Donc, je pense qu'on a un petit peu retiré la question idéologique sur l'usage de la langue française.
Parler français, pas vous l'avez dit intelligent. Parler français n'est pas un signe d'intelligence. Ce dicton créole veut casser les préjugés qui, il n'y a pas si longtemps, poussaient certaines écoles à imposer l'unique usage du français jusque dans les cours de récréation. Une perception élitiste que veut combattre le ministre de l'Éducation, Pierre-Josué Agénor Cadet.
Même ceux-là qui ne parlent pas français, ils sont plus contents d'entendre quelqu'un parler français que de parler créole. Et c'est comme si le français, c'était une sorte de connaissance. Quand on parle français, on est savant. Quand on parle français, on se fait respecter. Et donc, il y avait tout ça. Et on méprisait le créole. Mais aujourd'hui, on se dit, au niveau de l'éducation, nous avons opté pour une pédagogie convergente. Ça veut dire l'enseignement se donne en deux langues. Et le français et le créole.
Ce qui fait que pour la première fois cette année, il y aura une épreuve de créole au baccalauréat. Militant pour que la langue maternelle des Haïtiens ne se limite plus seulement au sujet de la vie quotidienne, Kedi Edmé a lancé en janvier un blog de connaissances scientifiques et notamment chimiques, rédigé entièrement en créole.
On peut parler de science dans n'importe quelle langue, parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de concepts qui ont rapport avec notre exploration que l'être humain fait de la nature, les questionnements. Et je pense que tout le monde doit, dans un certain sens, avoir accès à ça. J'essaie, et je pense que les linguistes doivent s'y mettre aussi. Et si je pense qu'il y a une barrière, mais tout court, moi j'utilise un mot anglais ou un mot français, et je dis voilà ce que ça veut dire, j'explique un petit peu plus ce que cela veut dire en créole. Même si je n'ai pas le mot créole pour expliquer exactement ce que cela veut dire.
Aujourd'hui, Haïti assume davantage son bilinguisme français-créole, tout en s'ouvrant aussi, via l'émigration de sa jeunesse, à l'anglais et à l'espagnol. Amélie Baron, Port-au-Prince,
RFI.
Le créole désormais donc enseigné comme une langue à part entière, présent au baccalauréat en Haïti. Stéphirose Niotniot, ce qui est sûr, c'est que on apprend mieux, on réussit mieux à l'école en français, dans toutes les autres matières, hein, quand on a commencé ces apprentissages dans la langue qu'on entend parler à la maison, en fait.
Oui, tout à fait. Plusieurs études l'ont démontré, notamment le rapport mondial de suivi de l'UNESCO, ou encore l'observatoire de l'OIF, de la langue française. Ce qu'on comprend, que l'enfant qui a la possibilité d'aller à l'école, d'apprendre dans sa langue maternelle, aura beaucoup plus de facilité de comprendre différentes matières, dans la mesure où son mental, sa référence, ses références vont faire écho à son environnement, sa culture, sa langue. Il est beaucoup plus difficile de le faire lorsque l'on doit donc directement apprendre dans une langue qui n'est pas notre langue d'origine. C'est beaucoup plus difficile pour le cerveau, même voilà, son identité, de suivre des domaines que l'on n'a pas eu l'habitude de côtoyer.
Donc la langue maternelle, c'est vraiment le socle des apprentissages.
Exactement, oui.
Rukyata Ouedraogo, c'est aussi l'expérience que vous avez, vous ?
Oui, aujourd'hui, moi, c'est vrai que la langue morée, c'est une langue qui m'a fait. Moi, j'ai appris, par exemple, les contes que ma mère me racontait quand j'étais petite, c'était en morée, c'est ça qui m'a façonné. C'est pas le français qui m'a fait. Donc
c'est le socle sur lequel vous avez pu ensuite.
Exactement,
vous ouvrir.
C'est avec les contes que maman me racontait, cette oralité qu'on a avec ces langues vernaculaires, c'est ça qui me permet moi aujourd'hui de transposer en français. Et je pense que c'est comme je rejoins ma collègue qui.
Tout ce que, oui, voilà, par rapport, c'est ça, à l'environnement dans,
exactement,
lequel tu as pu imaginer, tu as pu développer ton imaginaire.
Exactement. Et aujourd'hui, je peux monter sur scène et raconter des histoires en français.
Gilbert Nyongabiré, vous êtes donc, on l'a dit, vous, au Burundi. Hein, c'est l'un des pays d'Afrique où on compte le moins de francophones, avec le Rwanda. D'ailleurs, c'est moins de 10% de la population. Comment se passe l'enseignement du français pour les jeunes, pour les petits Burundais ?
Merci. Au Burundi, le français est appris à partir de l'école primaire. Il est à côté des autres langues, à savoir le Kirundi, qui est la langue nationale. Il y a aussi le Kiswahili, et à présent, il y a aussi l'anglais. Mais ça, c'est appris à des niveaux. Il y a un décalage entre les.
On apprend quatre langues en même temps ?
Ouais.
Et on s'y retrouve.
Oui, on s'y retrouve.
Quand on est un enfant dans une classe de primaire, on s'y retrouve entre ces quatre langues.
Oui, je m'imagine, c'est bel et bien, et c'est très correct, parce qu'un enfant qui est très très petit, il assimile tout. Lui, quand on lui donne tout ce qu'il voit, il bloque, il mémorise. Et c'est à partir peut-être de la septième année ou de la huitième année qu'il commencera à distinguer. Ça, c'est toujours français, ça c'est anglais, ça c'est Kiswahili. Voilà, mais d'ores et déjà, il maîtrise sa langue maternelle.
Et il les maîtrise toutes en même temps. Nadia Yela Kisukidi, sur cette prééminence peut-être de la langue maternelle pour arriver à s'ouvrir, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est défendable ? Ou est-ce qu'on peut après tout apprendre en même temps et tout intégrer quand on a moins de 10 ans, on va dire ?
Je pense qu'on peut tout intégrer quand on a moins de 10 ans. Après, moi, j'ai pas la même expérience. C'est-à-dire que j'ai vécu en Wallonie, en français, mais je sais que les langues de mon père, le Kikongo et le Lingala, plutôt le Kikongo d'ailleurs, sont des langues qu'il m'a transmises à travers les contes, à travers les berceuses qui me chantaient, à travers la musique, puisque mon père est aussi musicien. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment on rêve encore dans ces langues, dans cette espèce de brouhaha de langues en fait. Et lors d'une conférence que j'ai faite au Congo-Brazzaville cette année, j'étais accompagnée d'un musicien congolo-rwandais, Samuel Kamanzi. Et je me rappelle qu'on a justement travaillé sur toutes les langues qui nous habitaient, pour penser notre rapport à la diaspora, au fait d'être éclaté entre plusieurs pays, c'est-à-dire entre plusieurs langues. Et moi, j'ai terminé un poème écrit par mon père en Kikongo avec un accent français, qu'il a traduit en français et ensuite en Kinyarwanda. Et ensuite, il a encore joué de la musique pour accompagner mes propos philosophiques dans sa propre langue. Donc, j'aimais beaucoup cette manière qu'on avait de dire nos histoires sont multilingues, elles sont plurinationales et ce sont des histoires de traversée.
Mmh. Est-ce qu'il y a, Rukyata Ouedraogo, des moments où vous sentez vos deux langues principales, on va dire le morais, le français, en conflit ?
Non. Non, j'ai jamais été en conflit avec mes deux langues. Pour moi, c'est une richesse avant tout.
c'est une richesse et que c'est quelque chose qui me permet d'avancer. Non, je n'ai jamais vécu ça comme un conflit, en fait.
Et le français, vous l'avez appris sur les bancs de l'école, donc ?
Exactement. Exactement, le français à l'école et puis dans la vie courante, hein, et voilà.
Et ça ne vous a pas perturbé qu'on vous parle moré à la maison?
Ah non, français, pas du tout, parce que comme je disais, moi je parle 5 langues. Hein, pareil, j'ai côtoyé j'ai grandi à Fada, je suis née à Fada, après je suis allée vivre à Ouaga, donc à Fada c'est les Gourmanché, donc je parle Gourmanché puisque j'ai appris ça à l'école aussi avec les copines à l'école. Le Djoula, parce que ma mère elle est née au Mali, donc elle parle Bambara. Le Peul, parce que j'ai des amis, enfin voilà, tous ces langues qui cohabitent ensemble. Et à chaque fois, quand je me retrouve devant une gourmandie, je parle gourmandie. Et quand je me parle devant Bobo, je parle Bobolais. Voilà.
Est-ce que le jour où vous aurez des enfants, vous voudrez qu'ils apprennent le français? Absolument. Est-ce que ça sera une priorité?
Absolument, non, parce que c'est... Pas absolument, mais je pense que c'est nécessaire qu'ils apprennent. S'ils sont ici, s'ils naissent en France, il faut parler le français pour pouvoir. Mais j'ai envie de les apprendre le moré, ça c'est certain. Je vais les parler le moré à la maison et aussi l'anglais, pour qui est une langue maintenant internationale. Hein. Donc oui, moi
donc
j'aimerais bien qu'ils
apprennent
trois langues.
Le moré en premier, le français s'ils sont ici, sinon l'anglais pour qu'ils puissent se débrouiller absolument
oui,
partout.
Bah, oui, voilà.
Stéphie Rose, même question pour vous. Est-ce que l'enseignement du français, la transmission du français, c'est quelque chose qui compte pour vous, pour les futures générations ?
Oui, je pense que c'est très important, comme on l'a dit. En tout cas, nous, à travers le projet Je parle Bassa 2.0, on a reçu beaucoup de témoignages de personnes qui nous ont expliqué qu'au début, ils ressentaient une sorte de complexe, c'est-à-dire que leurs parents préféraient systématiquement leur apprendre à parler français. Ils supprimaient complètement l'apprentissage en Bassa pour leur donner davantage de chances de s'expatrier ou autre. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un véritable retour aux sources. Donc pour moi, ça serait important de pouvoir transmettre à mes enfants la langue Bassa avec l'aide de mes parents, parce que moi, je parle Bassa avec un accent français, ça va être un peu dur. Mais avec le français. Tout à fait.
Alors Laurent Corot, ce qui est sûr, hein, et c'est aussi un constat du dernier rapport sur la langue française dans le monde, c'est que ceux qui ont appris le français et qui ont donc répondu au questionnaire de cette année sont attachés à sa transmission. Ils veulent que cette langue soit aussi enseignée à leurs enfants.
Oui, le rapport sur la langue française dans le monde cite une enquête dans laquelle la question suivante a été posée à des adolescents. Quelle langue souhaiteriez-vous transmettre en priorité à vos enfants lorsque vous serez parents? Eh bien, les réponses sont très positives pour l'avenir du français. En Côte d'Ivoire, la moitié des jeunes interrogés souhaitent transmettre en priorité la langue française. Au Burkina Faso, 73%, en Guinée, 62%, au Sénégal, 40%. On peut donc dire que le français semble avoir encore de très beaux jours devant lui.
Gilbert Nyongabiré, vous le constatez, vous aussi, cet attachement à la transmission du français d'une génération à l'autre?
Oui, je le constate. Par exemple, là, chez nous, au Burundi, moi, je suis encore jeune, vous voyez. Non, moi, j'ai appris français au banc de l'école et je dois pas laisser partir comme ça le français. Je dois essayer quitte à ce que mes générations et les enfants qui vont naître derrière moi puissent apprendre français. Et ça, c'est à travers de petites activités que nous parvenons à organiser. Et les enfants se sentent emportés par de ces activités qui sont d'ordre éridique et quoi. Voilà. Et ils apprennent français. Et à travers ces clubs, à travers l'école, mais aussi à travers l'environnement qui les côtoie.
Ne pas laisser partir le français, je retiens la
formule. Oui, je dis ça parce que au Burundi, il y a ceux qui disent que le français va disparaître, mais c'est pas du tout évident et c'est pas correct, parce que une langue qui est parvenue à s'implanter à travers le monde sur tous les continents, c'est difficile de dire que ça va disparaître.
Journée internationale de la francophonie.
RFI en édition spéciale.
Nathalie Amar.
Édition spéciale jusqu'à 9h. Alors, qui dit transmission, dit enseignement du français et moyens pour enseigner. Je vous propose d'écouter ce représentant des enseignants de République centrafricaine à votre micro, Laurent Corot.
En République centrafricaine, l'enseignant de la langue française éprouve beaucoup de difficultés. La lecture est fondamentale, n'est-ce pas, pour un enseignant, dans ses recherches d'abord et pour la formation des élèves en classe. La bibliothèque n'existe pratiquement pas, donc là, ça pose problème. Aussi, en région trafiquaine, il n'y a pas aussi de connexion Internet. Pour qu'un enseignant puisse se connecter et procéder à des recherches, ça pose problème. Ensuite, il y a l'effectif pléthorique des élèves, 180, 200 personnes par classe, qui ne permet pas à un enseignant de pouvoir réussir sa formation en classe.
Alors, on l'entend, un peu de moyens, peu de livres quand même, qui est le support premier de la langue. Pas d'accès à Internet. Gilbert Nyongabiré, c'est pas des conditions optimales pour transmettre cette langue française. Comment est-ce que ça se passe chez vous à Bujumbura?
Okay.
Est-ce que vous avez les moyens d'enseigner cette langue?
Merci. À Bujumbura, on doit se débrouiller. L'État doit mettre à disposition des livres, pour pouvoir enseigner français. Mais aussi, il y a des ambassades, surtout l'ambassade de France, qui fournit le matériel nécessaire pour l'apprentissage du français. Mais il y a aussi nous, Burundais, qui doivent déployer tous nos efforts pour que la transmission de la langue française continue.
Et est-ce que c'est le cas dans un pays où le français, on l'a compris, n'est pas forcément très, très valorisé au niveau national?
Ben, c'est valorisé parce que le français, c'est la langue officielle, c'est la langue d'administration. Et à part le Kirundi qui est la langue nationale, le français est une langue qui est très, très respectée là au Burundi. Et c'est une langue des intellectuels, tu vois. Quand je parle intellectuel, c'est entre guillemets. Ouais.
Nadia Yelakisoukidi, je voudrais que vous réagissiez à ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Comment, vous qui êtes enseignante en fac à Paris, comment est-ce qu'on enseigne une langue sans support écrit, sans accès à Internet? Ça devient quand même très compliqué.
Ça devient extrêmement très compliqué. Et là, je vais malheureusement être un peu polémique. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement,
extrêmement
beau dans tout ce qui est dit, cette traversée, cette manière d'investir la langue. Mais on a parlé de la francophonie politique. Et si on veut vraiment politiser la francophonie dans ce qu'il peut y avoir de plus beau, je pense qu'il faut ne pas renoncer à l'idéal du savoir. La francophonie politique, ça peut être une très grande francophonie du savoir, c'est-à-dire une francophonie humaniste. Et cela signifie, en gros, que le désir de savoir doit être un droit inconditionnel de circuler. C'est-à-dire qu'on doit permettre à des étudiants qui veulent, par exemple, venir en France, des étudiants francophones et qui veulent travailler, de pouvoir bénéficier, en fait, de ces institutions. Mais après, ils grandissent comme ils veulent à partir de ce qu'ils ont appris, ils rentrent, ils restent, etc. Et je dis ça de manière avec beaucoup de sévérité, beaucoup de gravité, puisqu'on sait maintenant que le droit d'inscription des étudiants étrangers extra-communautaires
a été multiplié
par 16, en fait, dans notre pays. Donc là, il y a une sorte de contradiction. Et moi, je rêverais d'une francophonie utopique qui serait capable de réinvestir le savoir justement comme valeur et qui dirait « désirer savoir », c'est donner le droit inconditionnel de circuler à des étudiants qui manifestent cette envie de connaître.
Alors il y a cette question effectivement de l'accueil des étudiants étrangers en France qui est une vraie question politique ici aussi, et il y a celle de l'enseignement loin d'ici, des moyens de faire passer cette langue française auprès des générations actuelles.
Alors on a été confronté à ça, bon, c'est une chose qu'on connaît de toute façon, mais on a aussi été confronté à ça puisque j'ai eu la chance de participer à l'école doctorale des ateliers de Dakar, qui a été montée par Achille Mbembe et Felwine Sarr, et qui s'est tenue donc en janvier dernier à Dakar. Et c'était très intéressant donc de voir à quel type de difficultés en fait étaient confrontés les doctorants des espaces francophones, c'est-à-dire à la déliquescence de certaines universités, l'absence d'accès à un ensemble de ressources. Et il est vrai en fait que confrontés à ces conditions matérielles, déjà simplement d'accès au savoir, et ensuite d'accès à la langue, fait que l'utopie, justement, d'un français qu'on pourrait transmettre assez aisément est un peu ruinée, confrontée à ces conditions matérielles effectives. Alors après, qu'est-ce qu'on fait effectivement pour résoudre ça? Moi, je crois déjà qu'on ne met pas de barrières, on ne construit pas des frontières, on permet aux individus de ne pas s'empêcher de circuler pour apprendre, et ensuite, après, il y a encore énormément d'initiatives qui, là, relèvent des pays eux-mêmes, en fait, des États-nations, pour donner de l'argent à l'enseignement supérieur et à l'enseignement secondaire, en fait.
Alors,
donc ça, sont aussi des politiques nationales.
Je vous propose un autre éclairage au Nigeria, cette fois, parce que pour apprendre le français, il y a les moyens classiques, une table, des chaises, un professeur, éventuellement un tableau noir. Et puis, il y a justement le net, les applications mobiles, la version light, on va dire, de l'apprentissage du français. C'est le reportage à Lagos de Moïse Gomis.
Wando Ivanso s'oblige à apprendre le français via une application sur son téléphone. Sur une base de 10 minutes par jour, Wando espère à terme pouvoir suivre des films et lire en français.
Good morning here.
So, je dois saluer, donc good morning, c'est bonjour, je pense que c'est bon.
Yes, I'm correct.
Oui, j'ai raison.
Je suis un garçon.
Now it's accent.
Maintenant, ça me demande de bien prononcer les mots, de prononcer correctement.
So. Oui, je suis un garçon.
Maîtriser la langue française, c'est le rêve d'Antonia Nayaba. Licence de diplomatie en poche depuis 2016, Antonia a tenté de renforcer ses bases en français avant d'abandonner.
Prendre des cours de langue au Nigeria à Lagos coûte assez cher. Sur les conseils d'une amie, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone pour apprendre le français. Franchement, une application mobile, c'est utile peut-être pour les mots et l'orthographe. En revanche, ça ne m'a pas vraiment appris à parler.
Des Nigérians avides de devenir francophones, Patricia Kayambe en croise beaucoup à Lagos. Depuis près de 12 ans, cette Congolaise enseigne le français. Et pour Patricia, les applications sont loin d'être une solution.
Vous ne pouvez pas apprendre une langue, vous stockez, je ne sais pas, le vocabulaire, tout dans votre tête, et vous ne la parlez jamais. À quoi ça sert? Vous apprenez à saluer, ne saluez pas votre ordinateur, saluez une personne qui parle le français. Bonjour, et la personne répond, et la personne a compris ce que j'ai dit. Je ne suis pas contre les applications, mais en tout cas, je ne conseillerais pas aux gens de s'en servir.
Moïse Gomis, de retour de Lagos, RFI.
Voilà, les applications mobiles pour apprendre le français. Stéphie Rose Niotniot, vous qui êtes plein cadre dans la génération, la génération Internet application, qu'en pensez-vous?
Alors nous, à travers Je parle Bassa 2.0, on a développé une application mobile. C'est assez simple en fait. Il y a du lexique, il y a des phrases. La personne doit donc traduire des phrases comme je suis un garçon, j'ai 20 ans, etc., etc. Après, je rejoins ce que la personne de l'audio vient
de dire. Donc c'est un kit de survie en milieu Bassa.
Oui, voilà, c'est vraiment.
C'est pas vraiment un apprentissage de la langue.
C'est vraiment la base en fait. C'est comment s'en sortir ou prétendre être Bassa quand on ne l'est pas forcément. Mais les applications, oui, je pense qu'elles aident. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'imprégner dans le pays au sein duquel on va apprendre la langue. Après, c'est un peu compliqué.
Rukyata Ouedraogo, vous apprendriez, vous, n'importe quelle autre langue sur une application mobile?
Oui, mais après, ce que je déplore un peu, c'est pour les autres qui ne peuvent pas avoir accès à des ordinateurs ou à des outils informatiques pour apprendre, donc c'est un peu dommage. Et je voudrais aussi rebondir juste quelques secondes sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que chez moi, au Burkina, malheureusement, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées suite à la situation
sécuritaire.
Voilà, sécuritaire. Mmh. Et vraiment, c'est dommage, quoi. Je pense que si on pouvait faire des choses pour ça, pour assurer quand même que ces enfants puissent retourner à l'école. Et j'ai vraiment une grande pensée pour tous ces enseignants qui se battent tous les jours.
C'est le cas au Burkina,
c'est le
cas
au Burkina, au Mali, un peu partout. Et voilà. Et aussi, ces enseignants qui se battent avec pas beaucoup d'outils, parce que je suis allée récemment au Burkina, j'étais dans une école et il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de livres. Il y avait peut-être 15 livres pour 60 élèves. Donc, il faut absolument que nos gouvernements fassent des choses pour qu'on puisse avoir accès à tout ça.
Rukyata Ouedraogo, en débutant cette émission, vous nous parliez de cet accent qui vous complexait un peu, votre arrivée à Paris. Eh bien, tout à l'heure, aux consécrations, vous allez énoncer pour des milliers, peut-être des dizaines de milliers d'amoureux du français, la grande dictée de la francophonie. C'est une tradition, tous les 20 mars, ça se passe ici, c'est filmé, c'est retransmis, ça sera sur le site... sur la page Facebook d'RFI, je vais y arriver, ainsi que sur plein d'autres sites certainement. Vous avez le track?
Oui, j'ai le track. J'essaye de ne pas le... Mais en même temps, j'ai la bonne place, parce que pour une fois, ce ne serait pas moi qui serais assise de l'autre côté.
D'accord.
Donc ça, c'est réjouissant.
D'accord, vous allez juste faire bosser les autres.
Exactement.
Et ça vous réjouit. Vous l'avez déjà vu, ce texte?
Oui.
Ah.
Mais je n'en dirai pas plus.
Vous n'en direz pas plus.
Vous allez découvrir ça tout à l'heure.
Vous avez dit que ça se passerait bien pour tout le monde. Vous êtes sûr là, vous maintenez.
Oui.
Oui. quel conseil est-ce que vous pourriez donner, Rukyata, à ceux qui vont se lancer dans cette dictée avec des niveaux de français peut-être très différents partout où ils nous écoutent et où ils suivront cette dictée de la francophonie?
Oh, c'est de se laisser aller, c'est de prendre un stylo, une feuille, s'asseoir et puis écouter, et surtout de rester décontracté.
Oh mais j'adore, voilà. J'adore la vie avec vous, se laisser aller et rester décontracté. Il est 8h56 à Paris. Pascal Paradou, m'entendez-vous?
Je vous entends parfaitement, Nathalie, depuis 2 heures déjà.
Ah bah écoutez, c'est bien, bel effort, vous êtes dans les studios d'RFI.
Et vous faites la Nouba à l'OIF.
Absolument, absolument, avec Rukyata Ouedraogo, vous êtes vous dans les studios d'RFI à Issy-les-Moulineaux, et c'est vous tout à l'heure qui allez nous présenter après le journal un numéro spécial d'appel sur l'actualité.
Oui, pour jouer avec des expressions que nous allons proposer aux auditeurs et aux auditrices, des expressions sur la langue française en cette journée internationale de la francophonie. Alors alors des expressions comme faire la nouba, ce que je vous disais, mais aussi copain comme cochon, se mettre la rate au courbouillon, être au bout du rouleau et pâter la galerie, ou avoir des cornes pour dire l'infidélité. Déjà, beaucoup d'auditeurs ont proposé des équivalences à cette expression avoir des cornes. Je pense que c'est un sujet qui inspire, je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, l'idée de découvrir la richesse du français, des français, tels qu'ils se pratiquent dans ces espaces et dans ces mondes francophones, pour dire l'amitié, l'amour, la douleur, la fatigue, à vous de nous le dire. Donc, vous connaissez, Nathalie, comme les auditeurs, le numéro de téléphone, 33 9 693 693 70, la page Facebook de RFI Appel sur l'actualité, et j'espère que l'on va bien s'amuser. Je suis sûr, Nathalie, que vous allez découvrir des expressions que vous utiliserez tous les jours.
Eh bien, on est très impatients d'entendre ça. À tout à l'heure, Pascal. Merci à nos invités, Rukyata Ouedraogo, votre spectacle au Théâtre de l'Œuvre. Je demande la route à voir jusqu'à, en deux secondes.
Au 24 avril.
Jusqu'au 24 avril, il reste encore quelques semaines. Stéphie Rose Niot-Niot, fondatrice de Je parle le Bassa 2.0. Nadia Yalakisoukidi, maîtresse de conférences en philosophie à Paris 8. Et Gilbert Nyongabiré, président du club RFI Bujumbura. À la rédaction en chef, Laurent Corot, Bertrand Éclair et Laurent Hérault étaient au manette de ce studio provisoire. Un grand merci à Camille Néran qui m'a aidé à préparer cette émission. Excellente journée à vous à l'écoute des RFI.